Je suis content parce que je retape dans mes vieux morceaux là que je passais au début d'intro et ça fait plaisir. J'ai dormi, je suis reposé, j'ai dormi au moins 4h30, autant dire que on est en ultra grande forme après une soirée hier soir sur Valo. Extrêmement compliqué, une grande soirée de loose. Mais on s'en fout, on retrouve le bonheur des journaux, de la revue de presse. Ok, Marveille BZH qui nous dit « Je suis cocu, mais je suis content. » Ok, de deux choses l'une, où tu nous racontes ton vécu, et dans ce cas-là, on t'envoie de la force. Ou alors tu nous parles d'une chanson, célèbre chanson que les jeunes ne connaissent pas. Je vais essayer de la trouver. Ah ouais, Serge Lama! C'était Serge Lama! Tu chantes Marveille? Ah, je pensais que tu nous racontais une histoire. Serge Lama! C'était lui qui chantait. Mais ouais. Les petites femmes de Pigalle. Ouais. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais c'est content. C'est un mec qui s'est fait, je sais pas, il s'est fait piquer sa femme, je crois. Il va voir les petites femmes de Pigalle. Je ne sais pas de. Je pense qu'il parle de femmes de petite taille, je pense. Et du coup, il est cocu, mais il est content. On va essayer de, je vais essayer de vous faire écouter ça. Ça, c'est une vieille chanson. Ah, les pubs là, aïe, excusez-moi. Ok, mais content. Je suis amoureux, mais je veux poser un spike entre deux journaux. Hein? Ta 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 ta.
Ha ha! Petite femme de Pigalle. Petite femme de Pigalle. Hey! Content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content.
Voilà, ça c'est pour la ref, la vieille ref que Marveille dans le chat a balancé là. Je pense que tout le monde n'a pas la ref. Faut être d'une génération, on va dire, ancienne pour avoir la ref. Maintenant, vous l'avez Serge Lama. Voilà. Eh oui. Serge Lama et pas Serge Slama. Ça n'a rien à voir. C'est un autre. Vous allez bien, vous? Hello, est-ce que c'est le bal dansant du dimanche? C'est exactement Rennes. Vous allez bien les beaux gosses? Papy Sam, raconte-nous une histoire. Merci Fergie. Merci Moumou Reine des Mouettes pour les gentils messages, les subs. Merci Rainbow 86, vous avez vu. Merci Sugar Frog. Merci du soutien. Merci Brandy Hot Dog pour le 39e mois d'abonnement, nom de Dieu. Merci Cheese Coon, merci Dead Do, vous êtes incroyable. Merci Tom Tom San. Excuse-moi. Salut Samuel, tu vas bien? Je te suis depuis Question pour un champion. Donc ça fait 9 ans que tu me suis? C'est toi qui me suis dans la rue? Concon Sachou? Tu sais que j'ai déposé une main courante, hein? Il y a une enquête, hein? Ça fait 9 ans que tu me suis? C'est toi? Ok, c'est quoi ton pseudo? Attends, le pauvre, c'est son premier message dans le chat. C'est sa première expérience sur la chaîne. Il débarque de questions pour un champion et il est en train d'apprendre que je vais porter plainte contre lui. Tout ça, c'est mon humour claqué au sol. Hein. T'inquiète, n'aie pas peur. Melissa Queen, merci pour le 18e mois. Entretien d'embauche, force. Pauvre. Bonjour, à quand le Silver? Jamais. Jamais. Draxi demande bonjour, à quand le Silver Samuel? Never, ever, jamais. Voilà, bon, j'ai compris. Hein. Trop vieux, pas de réaction, pas de réflexe. Cerveau trop lent, un niveau qui augmente parallèlement à mes modestes progrès. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau ne cesse de monter sur Valo, jeu compétitif. Et donc, c'est assez fini. La soirée d'hier soir m'a montré que ça n'arriverait jamais. Bon, je ne sais pas. si je vais poursuivre ce jeu en vrai. Parce que la soirée d'hier, c'était vraiment trop dur. Ta-ta-ta, il y a du game sense qui arrive, ouais, mais sans aim, il peut rien se passer. Ta-ta-ta, toujours pas assez, Sam, il faudrait que tu joues tous les jours 4-5 heures. Bah oui, mais Diesel, c'est-à-dire que j'ai une vie, moi. Hein. Je fais pas la revue de presse, on m'engueule. Je rejoue pas aux jeux vidéo que j'ai découvert dans Samplay, on m'engueule. Je stream trop, je travaille trop à la maison, on me dit hey, papa, t'es gentil. Donc voilà quoi. Tintintin. La confiance va revenir? Non, non, c'est foutu. Je vais de faire une présentation pour l'école, je l'ai fait sur toi, Samuel, mais j'ai pas d'inspi. Corfang. Déjà, je vais te faire une intro. Corfang, c'est quoi ton prénom? Je vais te faire une intro, tu vas pouvoir l'enregistrer. Je vais te faire l'intro de ta présentation. Donne-moi ton prénom, parce que si tu t'appelles Corfang, ils vont rien comprendre. Ton prof va rien comprendre. Surveillez la réponse de Corfang, il me faut le prénom et je fais une intro. Bienvenue dans ma vie de papa. What? Merci Mister Nucléaire 13, c'est quoi cette dinguerie? Merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci, waouh! Merci Juroscoff pour le gentil message et pour le soutien. T'as découvert l'e-sport ce week-end avec l'RTS4, c'était trop cool. Merci pour le 37e mois en vrai. The Voyageur, merci pour le 38e mois. Merci Mister Nucléaire pour le prime que t'as pris pour toi en plus. Incroyable ça. C'est quoi le prénom du garçon? Laurier? Ok, Laurier? Ok, let's go. Bonjour à tous, c'est Samuel Etienne. Je suis sur ma chaîne Twitch, un univers incroyable que j'ai découvert il y a presque 5 ans maintenant, où je parle d'actualité et de jeux vidéo. Et puis après un passé de journaliste très longtemps et d'animateur à la télé, ce que je fais toujours, mais voilà. Et notre ami Laurier a décidé de vous faire une petite présentation à mon propos. Voilà, donc on lui souhaite bon courage, plein de force, et je suis sûr que ça va être formidable. Bonne journée à tous. In, out, hop, t'as ta petite intro. Tu vois, la classe. Tu vois, tu mets ça au début de ton intro, téléphone, iPad ou je sais pas, ou écran rétroprojecteur là, et let's go quoi. Ça fera 200 balles. Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Et tu l'as en replay sur la chaîne Twitch. Aujourd'hui, si t'es abonné, demain sur YouTube. Donc, tu l'auras au plus tard, même si t'es pas sub, tu l'auras demain sur YouTube en replay, ça. Tu vas à 9h18, tu es 9h17, 9h18. Tu vas sur le replay YouTube, au pire, tu l'as demain, quoi. Au plus tard. Si t'es pas enregistré, là. Bright? Laurier? Est-ce que ta famille regarde tes lives? Non. D'ailleurs, j'ai fait 3 lives, t'imagines? J'ai fait une revue de presse de 3 heures au moins. J'ai fait un MVP de 3 heures et j'ai refait un petit valo hier. J'ai dû faire 9 heures de stream hier. Mais tu penses bien que ma famille. Ils peuvent pas trop. Non, en vrai, non. Non, puis je parle trop mal. Moi, je veux pas que mes enfants de 4 et 8 ans, mes deux petits garçons, voient comment leur papa parle mal. C'est même scandaleux. C'est même scandaleux. Je veux dire, cette licence sémantique, cette liberté du verbe, un verbe fleuri, hein. Les injures filent facilement ici, hein. Voilà. C'est pas, ce n'est pas, moi, je trouve ça très choquant. Voilà. Non, c'est moi, je suis très choqué par ça. Vous verrez qu'un jour, il y aura un article dans un grand journal, Le Monde par exemple, qui titrera Samuel Etienne du paf au prout, hein, ce genre de choses. Hein, parce que à un moment, il faut sanctionner ça. Il faut sanctionner ça, il faut mettre un haut là. Je vous demande de vous arrêter. Hein, ça n'est pas possible. Non, non, je ne veux pas que mes enfants regardent ça. Non, non, non. Ici, il y a trop de liberté, il y a trop de liberté, notamment au niveau des mots, du verbe. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc non, mes enfants ne regardent pas. T'es chaud, t'es. Salut et bravo à tous les facteurs, vous faites un métier extraordinaire. On est Lucu qui nous regarde, je suis facteur, je t'écoute en tournée, en podcast, c'est un régal, merci à toi. Merci, merci, c'est trop gentil. Tu sais que... Mister Nucléaire, ma grand-mère m'a demandé Twitch pour te regarder le matin. Elle se lève à 5h du matin et dès 8h tous les jours, elle m'appelle pour savoir si ça a commencé. Ta grand-mère me regarde toutes mes dingueries sur Twitch, elle va être tellement déçue. À la one, tu n'abuses pas, je vais le faire dans un instant. Ta grand-mère me regarde, ah ouais, mais je suis gêné en vrai. Non, parce que cette liberté de vocabulaire, elle s'adresse pas au. Enfin, tu vois, c'est un public réduit, quoi. Ok. Ben, je l'embrasse très fort, ta grand-mère. Allez, Rouen, un message perso pour la Saint-Valentin, ce que tu pourrais dire à Azadel, quel beau prénom, la personne qui partage ma vie, que c'est une personne merveilleuse. Oui, je peux le dire. Azadel, je le sais de source sûre. Tu es une personne merveilleuse. C'est un magnifique prénom par ailleurs. Bonne journée. Bien sûr que je peux le dire. Oh, la pauvre grand-mère. Elle t'entend? Quoi? Ta grand-mère nous entend? Oh, mais elle doit me prendre pour un fou. Alors, il faut que j'ai. Madame, je vous explique ce qui se passe ici. J'ai travaillé en radio et en télévision pendant 30 ans, dans des rédactions, dans des entreprises où tout est très encadré. Il y a des règles et c'est normal, il faut les respecter, pas les dépasser parce que quand vous parlez, vous n'engagez pas que votre parole, vous engagez la parole d'un groupe, d'une équipe, d'une émission, d'une rédaction, d'une chaîne, parfois même d'un groupe audiovisuel. Donc vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous n'êtes pas libre au niveau de vos propos. Ici, c'est ma chaîne, donc je dis ce que je veux et j'en use et j'en abuse parce que c'est la libération, quoi. Libérer, délivrer. Chantait un grand philosophe, je ne sais plus qui, il y a très très longtemps. Donc voilà, et du coup, ben on va à droite, à gauche, en haut, en bas, ça va trop loin. Mais c'est la liberté, c'est le doux parfum de la liberté. C'est pour ça que c'est un peu foufou, quoi. Voilà. Donc je m'excuse de tout ça. Et merci, madame. Merci de votre compréhension. Sais-tu compter jusqu'à 20 sans dire 10? C'est drôle, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 20. C'est ça le piège? Faut pas dire 17, 18, 19, c'est ça? Je sais pas. Ça doit être ça, je pense. Aujourd'hui, cours d'éducation aux médias, j'ai choisi ça entre autres grâce à la revue de presse. Merci Ayoub. Oh, est-ce qu'on avait des nouvelles du viewer qui avait son oral de thèse? Très bonne question. On a essayé de rassurer un viewer qui s'apprêtait à passer son oral de thèse. Ah ouais, ce serait cool d'avoir ces nouvelles. Savoir si ça s'est bien fait passer. Nini la curieuse, ma grand-mère était capable de dire des dingueries. Les grands-parents sont pas forcément coincés. Duc. T'as pas fini ta. Ah. T'avais un problème de touche. Coincé duc. Du quoi? Bon, elle devait être cool ta grand-mère en vrai. Par contre, ta phrase n'est pas terminée. À quel âge as-tu su que tu voulais devenir présentateur TV? Oh, très tard, je voulais pas devenir présentateur, moi je voulais devenir journaliste de presse écrite, moi. Et c'est après, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise en radio et puis en télé qu'en presse écrite. Je n'écrivais pas très très bien, ma plume n'était pas exceptionnelle. Voilà. Je voulais être le Proust de la presse quotidienne et finalement, j'ai été le Prout. De Twitch. Oui, voilà. Voilà ce que je suis devenu. Excellent, excellent. Putain, je devrais écrire des one man, quoi. Je les préchote, ah pas moi, il est venu comme ça. Très fier de celle-là. Faut que je la replace en interview, celle-là. Ah. On y a pensé, il a osé. Les jeux TV, c'était un objectif, une coïncidence. Totale coïncidence. Totale coïncidence. Un accident de parcours. Bonjour Samuel, excuse-moi, je voulais dire quelque chose. Hier soir, tu n'as pas enregistré Valo. Non, j'ai supprimé mon stream de Valo du replay. Hier soir, c'est pas possible. Je suis là pour vous détendre, pour vous faire passer un bon moment, vous faire oublier vos soucis éventuels. Voilà, j'étais en loose totale. Le moral dans les chaussettes. Donc je suis sorti du live, j'ai supprimé le replay. Pour ne pas infliger ça à personne, quoi. Alexandra a bien vu. Et tu es toujours en odeur de sainteté. J'ai pris une douche ce matin, The Voyageur, effectivement. Tout à fait. Est-ce que les chaises Secret Lab sont confortables? Je peux en parler, parce que ce n'est pas une OP, c'est un cadeau de mon épouse et de mon beau-papa. Elles sont très confortables. Oui, voilà, je suis très content de ma chaise Secret Lab. Secret Lab! Je vous lis un peu, c'est mon bonheur, et on commence cette très belle revue de presse. Je dis très belle parce qu'il y a beaucoup d'articles passionnants. Samuel a quand un roman autobiographique? Jamais, Bébernège. J'écris très mal et ma vie n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai rien à raconter. Double stream aujourd'hui, ça va dépendre. Mon cœur, mon âme, mon corps sont partagés entre deux vies. Une vie saine. Une vie saine où je fais par exemple une revue de presse, Alexandra, welcome, et après je vais me reposer, faire du sport. Faire du sport. Tu vois, voilà. Passer plus de temps avec ma famille, tout ça. Et puis il y a une vie sombre. Une vie dark. Une vie où l'espoir s'étiole, où la lumière disparaît peu à peu, où l'horizon s'obscurcit. C'est le monde du jeu compétitif. Voilà. Qui, au moment où je m'apprête à prendre des bonnes résolutions pour mettre de la lumière, de l'espoir, du sens à ma vie, eh bien, m'attrape par le callback comme ça. Clac. Ah, tu vas jouer à Valo. Ah, le Mordor, exactement. Ah, tu vas jouer à Valorant. Mais je suis nul. Ah, tchèf, on s'en fout. Voilà. Donc, je sais pas. On va voir. On va peut-être parler de Bayrou et de l'affaire Betaram, d'Origine Alpimus, qui devrait savoir que je n'en parle que si les journaux en parlent, puisque c'est le principe de la revue de presse. Et il n'est pas impossible que j'ai trouvé des choses ce matin, effectivement. Voilà cette vie où je retrouve les Yakuza, exactement. Je vous lis et on va y aller. Moi aussi, je suis Super One. Moi aussi. Comment on active les sous-titres? Je suis en cours, Samuel. Je sais pas. Comment qu'on fait? Je ne sais pas. Chiro, salut, c'est la première fois que je commente. Je révise ma culture générale pour le concours de l'ENM, École nationale de la magistrature. La classe, en vrai. J'ai pensé qu'une nouvelle approche avec tes streams pourrait être une bonne idée. Écoute, je vais m'appliquer, en tout cas. Ok. Spéciale dédicace à Antoine et à Juliette dans le chat. Tu n'as pas l'extension pour mettre les sous-titres? Ah, il faut mettre un plugin. Un plug-in. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce diablerie? C'est une blague? Qu'est-ce que c'est cette histoire de plug-in? Vous voulez me faire dire des bêtises, c'est ça? Ça va encore partir. Ça va encore partir sur TikTok ou sur Twitter, ça? Plug-in, c'est ça? Le Monde, 2 points. Samuel Etienne choque encore sa communauté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Greg Chope, salut Samuel, c'est mon premier live Twitch, j'ai choisi ton live. Eh ben, d'accord. Ben, je vais m'occuper de ce plug-in alors. Je t'assure que c'est pas une bêtise? Ouais. Ouais. Bizarre comme nom quand même, hein. Le Monde, 2 points. Samuel Etienne, du paf au plug. Il y a un plugin à intégrer depuis le dashboard pour les sous-titres. Ok, Julo. Et attends, ça veut dire que, est-ce que les gens l'activent à la demande, comme les disques à la demande? MDR plugin égale un programme additionnel. Peut-être que je le savais. Peut-être que parfois je fais le con. Peut-être que parfois je sais des trucs, mais je le dis pas. Pour vous faire sourire. Peut-être, mais on n'est pas sûr. Et le viewer choisi? Ah, mais c'est super. Ah, c'est désactivable, c'est l'inverse. Ah oui. Donc, moi, ce que je trouve formidable, c'est que les gens puissent l'activer. C'est l'inverse, ils peuvent le désactiver. Tu le mets d'office. Sans te vexer, ça sortira plus que sur Voici que sur Le Monde, grande madame. C'est que tu n'as pas lu Le Monde récemment, alors. Ce serait mieux en vrai. Il n'y a pas de jeu dimanche. ZTV, il n'y a pas de Samplay dimanche. Très bonne question. Mais il n'y a pas de Samplay dimanche. Non, 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 non. Je suis en vacances. Quand je dis ça, ça me gratte tout de suite. C'est-à-dire que j'ai une semaine sans stream. Un jour sans stream. Deux jours sans stream. Trois jours sans stream. Quatre jours sans stream. Cinq jours sans stream. Six jours sans stream. Sept jours sans stream. Moi, ça me choque. Je suis choqué. Merci Gabs pour le soutien. Merci Juroscoff encore. Je suis un peu choqué en vrai. Non, quand je vais en Corse, j'emmène mon setup. Mais là, j'emmène pas. Ouais, ça va être dur. Mais bon, ça va être compensé évidemment par l'immense bonheur d'être avec ma famille. Mais vous allez me manquer, quoi. Ouais, ton aim, Valo, va diminuer. C'est fini, Valo. C'est fini. Est-ce que tu fais du sport, Samemu? Dans une autre vie, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup. Mais j'ai découvert Twitch. Tu vas aller vers quel jeu de cœur maintenant? Oh, j'aimerais bien faire le truc qui se passe un peu au 15e siècle, là, 16e siècle, auquel j'ai joué récemment là. Un peu les mecs ils sont un peu ils se tapent dessus à la moindre occasion là. Comment ça s'appelle là? Kingdom Come 2 Deliverance, celui-là, ouais. Bien aimé celui-là. Peut-être faire ça. Pour lire tous les journaux, tu souscris une offre en particulier ou tu es abonné à chaque journal individuellement? Et Youb, je suis abonné à chaque journal individuellement. Voilà. Donc Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, pour soutenir la... Parce que je trouve que c'est aussi une démarche de soutien de la presse écrite. Train annulé, force, Dibble. Du coup, je rate l'écho, mais je peux me délecter de ton magnifique live. Quel bonheur. Bon, on va y aller peut-être. Hein. Ce serait tellement drôle de devoir jouer à ce jeu, Samuel. Mais quel jeu, Café au lait? Ah, Kingdom, j'y ai joué, j'ai déjà fait un stream. C'est en replay, mais je vais en refaire, je pense. Ici, en Belgique, les profs font grève le bonheur, me dit Corfang. Nous, on va parler d'un mouvement de manifestation dans le secteur du jeu vidéo en France, là, ce matin. Ah, il y a Attir Larigo qui nous dit, un journaliste de presse écrite te regarde ici. Une, merci à toi. Kingdom, tu n'as pas fait encore la partie où tu es libre de faire ce que tu veux dans le monde. Bon, on va se régaler, on va faire ça. Pop, 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 Melissa Queen, un conseil pour la crise de panique qui arrive une heure avant l'entretien d'embauche. Chill, respire. Si c'est le job pour toi, si vous êtes fait l'un pour l'autre, ça va se faire. Sois qui tu es, mais de l'engagement, de la rigueur, de l'envie, de la passion dans ton entretien. Voilà. Dis qui tu es, mais montre à quel point tu vas apporter des choses positives à l'entreprise et ça va bien se passer. Et si ça ne se fait pas, c'est que ça ne va pas se faire. Tout va bien, tout va bien. Moi, Mélissa, j'y crois. Hein. Merci Antoine pour le soutien. Petite question, s'il te plaît, est-ce que tu achètes le jeu auquel tu joues ou les éditeurs viennent te démarcher? Quand je joue à un jeu comme Kingdom Come, par exemple, là, et que c'est pas marqué collaboration commerciale, ce qui était le cas là, c'était pas une collaboration, c'était pas une collab, c'est moi qui achète le jeu et j'y joue parce qu'en fait, je l'ai vu, en l'occurrence, je l'ai vu chez Tonton et je sais plus qui, j'ai eu envie de jouer. Quoi. Et en revanche, quand c'est une opération commerciale et qui a un caractère publicitaire, je le signale, c'est vraiment le moindre des choses. Le petit hashtag publicité, dans le stream c'est indiqué, etc. Et tout, quoi. Donc ça, c'est vrai. Si vous ne le voyez pas, c'est que c'est juste mon petit bonheur. Quoi. Parfois, j'ai très envie de jouer au jeu, et en plus, c'est une OP. Alors là, bingo. Ce qui arrive le plus souvent. On envoie de la force aux grippés, hein, Toto Shoot. Hein. La grippe, elle est IHT avec Ludovic B dans MVP, c'était une bonne émission, qui sort de 5 jours de grippe. Et il m'a confirmé qu'elle avait été bien radicale. Paul, le rédacteur en chef de l'émission aussi, il l'a eu. Super head chef, il est incroyable. Paul, j'aime beaucoup ce garçon. Et ben pareil, C'était bien chaud, quoi. C'était bien hier. Hein. Bon, on va peut-être y aller, hein. En général, on se donne 30 minutes d'intro, 28, là, on y va. On est prêt pour le petit sommaire? Levez la main ceux qui sont là pour la première fois, qu'on les accueille, qu'on leur fasse des bisous, qu'on leur achète des croissants, qu'on leur offre un petit café ou un petit thé. Je vais vous expliquer le sommaire. Le sommaire, c'est un petit résumé de l'actu en 5-10 minutes. Puis après, on développe tout ça. Qui? Non, d'Original Pimou, c'est là depuis longtemps. Salut, Golas57. Qui est nouveau? Oh, mais salut! Il y en a plein. Salut Gwen, salut Jalinéo, salut Zopi, salut Swear. Oh là là, ça fait trop plaisir. Salut Zabi. Salut Cassie. Salut De Hartelous. Salut Toninho. C'est incroyable, c'est cool d'avoir plein de nouveaux comme ça tout le temps. C'est trop bien. Alors, deux choses importantes. Les nouveaux. Donc, la revue de presse, ça dure 3 heures. Du coup, on fait un résumé de 10 minutes au début, quoi. Comme maintenant vous êtes dans la commu, je peux vous dire. Salut Multicol, le secret que tout le monde, que les habitués savent. Ça, officiellement, c'est du thé. En vrai, c'est du whisky chaud. C'est un faux sachet de thé. Parce qu'en fait, le whisky chaud, c'est très bon pour ma voix. Ça, c'est un secret. Voilà. À ne pas divulguer. Sinon, ça va donner des articles. Samuel Etienne, 2 points. Du paf au whisky. Eh ouais. Donc attention à ça. Merci Latlevi pour le 11e mois d'abonnement. Vous êtes prêts pour le sommaire? Merci Café au lait. Ouh, trop bien ça. Go. On y va. Ça se boit vraiment le whisky chaud? Quelqu'un a essayé? Moi, tous les matins. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité ce matin? Hop, ça, c'est mes petites notes. Je me lève tôt le matin, je lis tous les journaux, tout ce que je vous ai montré. Voilà, avec mon écriture de pâte de mouche de médecin fatigué. Et je numérote tout ça. Ça vous fait un petit ordre. Let's go. On va commencer par... Bon, c'est l'actualité, donc parfois, il y a des trucs... Tu écris en japonais? Non. C'est vrai que c'est pas très bien écrit. Alors, une affaire dramatique. Une affaire dramatique, c'est l'affaire de la petite Louise, vous savez, qui a été... assassiné. Voilà. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus ce matin. Moi, je ne suis pas très fait divers. Voilà. Mais il y a plein de choses qui sont greffées autour de ça et qui sont, je pense, qu'il faut dire. Je prends un ton grave parce que je pense à la famille de cette jeune fille. C'est la une du Parisien ce matin. Meurtre de Louise. L'effroyable scénario. Owen L., 23 ans, a reconnu avoir poignardé la collégienne après avoir paniqué. Il assure qu'il voulait juste racketter une personne pour se calmer après une dispute lors d'une partie de jeu vidéo en ligne. Alors, quand on va voir un journal comme Le Figaro ce matin, page 8, qu'est-ce qu'on lit? Accro aux jeux vidéo, c'est dans le titre. Violent, agressif, Owen L. a déchaîné sa colère contre Louise. Je suis un lecteur du Figaro, je ne connais pas l'univers des jeux vidéo. Qu'est-ce que je déduis de ce titre? Je déduis que, évidemment, c'est la faute des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'a fait le Parisien ce matin à ce propos? Parce que les journaux proposent des lectures éditoriales différentes. Le Parisien donne la parole à une psychologue spécialiste des pratiques numériques, voilà, qui dit au lecteur du Parisien, il n'y a pas de causalité entre jeux vidéo et passage à l'acte violent. Donc le Parisien nous dit ce matin, il n'y a pas de lien entre ce meurtre et les jeux vidéo. Ce que tout le monde sait, ce que tous les scientifiques qui ont bossé sur le sujet savent, il n'y a pas de lien. Donc on lira le Parisien, on lira aussi un petit peu le Figaro, sur ce sujet. Voilà. Il y a autre chose que, outre la pensée qu'il faut envoyer vers la famille, il y a une histoire justement à propos de la famille de Louise. Je crois que c'est Libération qui en parle ce matin, page 18. Si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, l'ancien Twitter, vous avez sûrement vu passer des tweets de personnalités ou de journalistes liés à la droite ou à l'extrême droite, voilà, mettre en cause la nationalité d'une personne qui a été un temps mis en cause et finalement très vite innocentée. Voilà, et je vous lis cet extrait de Libé. Ce qui n'a pas empêché plusieurs médias d'extrême droite, du JDD à Valeurs Actuelles, de publier l'identité de l'homme un temps mis en cause, décrit comme de type nord-africain. Voilà. Hein. Et après, c'est parti dans les sphères d'influence liées à la droite et surtout à l'extrême droite, en mode, voilà. Et il y a eu bien pire que ça. Il y a eu des tweets qu'on ira voir ce matin. Il y a eu des tweets de gens liés à l'extrême droite qui ont agressé la famille de l'enfant assassiné, notamment de sa sœur, qui avait sur les réseaux sociaux fait des prises de position vers la gauche et en disant, en substance, elle doit bien se sentir maligne maintenant, cette sœur, hein, avec son cœur qui penche à gauche, de découvrir que c'est un immigré qui a commis le crime. Bon, évidemment, ça, il se trouve. Ah, pas de chance, la personne n'était pas d'origine immigrée. Donc ces tweets ont été écrits. Ces tweets, moi, je les ai retrouvés sur Internet en 2 secondes ce matin. Donc on ira voir le niveau de ces gens qui, après le meurtre d'une enfant, n'ont rien trouvé de mieux qu'incriminer la famille de la victime en disant que, parce qu'ils étaient de gauche, quelque part, ils avaient contribué à sa mort. Ces gens existent. Ces gens ont écrit ça. Et on va évidemment les clouer au pilori ce matin, on ira voir ça. Voilà. Et moi, je vous en parle pas parce que c'est anecdotique, parce que moi qui traîne un petit peu sur les réseaux sociaux et sur X, j'avais vu ces tweets. J'avais vu l'histoire de la disparition puis de l'assassinat de la petite Louise, et j'ai vu ces messages. Alors, je ne suis pas ces personnes. Je ne suis pas ces personnes sur X. Et pourtant, ces messages sont passés sous mes yeux. C'est-à-dire que l'algorithme, à un moment, a mis en avant ces messages qui ont dû avoir un certain succès pour que je puisse les voir. Donc, ce ne sont pas des tweets isolés. Ce ne sont pas des tweets que personne n'a vus. Je les ai vus, moi, alors que je ne suis pas ce type de compte. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait avoir ces messages. Et si ces personnes qui voient ces messages ne s'informent pas, ils vont garder cette idée que, oui, en fait, oui, j'ai vu quelque part qu'en fait, le meurtrier était d'origine nord-africaine. Non! Voilà. Et donc, quelque part, c'est un peu là. Voilà. Vous vous rendez compte? À quel point c'est gravissime? Voilà. Donc, il y a un problème là. Donc, je vais en parler parce que ce n'est pas du tout anecdotique. Je continue parce que c'est juste le sommaire. Donc, on parlera avec ça. C'est un sujet très, 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 très lourd, très, très sensible. Mais je pense qu'il faut en parler. Puisqu'on parle de l'extrême droite, j'ai trouvé un article de Libération qui est intéressant aussi ce matin, page 22, qui nous dit ceci. Réseaux sociaux. Ah. Plus un parti est à droite, plus il diffuse des fake news. Bon. La désinformation en ligne fait partie intégrante de la stratégie des droites radicales. Hop, je vous ai pas mis l'article. Ça, c'est Valorant. Des droites radicales. La désinformation en ligne fait partie intégrante de la stratégie des droites radicales, parce qu'on a droite radicale, droite très à droite, extrême droite, tandis que les formations de gauche, même si elles sont radicales, écologistes ou social-démocrates, ont moins recours à cette pratique. Alors, qu'est-ce qu'il le dit? C'est une étude récente réalisée par des universitaires néerlandais. Quelle est leur méthode scientifique? Moi, je m'interroge. Donc, on va aller voir quand même. Comment ils ont travaillé scientifiquement? Qu'est-ce qui leur permet d'affirmer ces scientifiques? Qu'à l'extrême droite, on utilise plus, on manie plus les fake news qu'à la gauche radicale. Bon, on verra ça. Bon, c'est intéressant. En tout cas, c'est lié à notre sujet précédent. Ensuite, je vous emmènerai parler de quoi ce matin? Puisqu'on parle de jeux vidéo, du coup, j'enchaîne avec les jeux vidéo. Il y a une grève aujourd'hui en France dans le secteur des jeux vidéo. Libération nous en parle, page 10. Je n'étais pas au courant de ça. Je lis pas vos commentaires parce que je suis dans le sommaire. Hein. Grève dans le jeu vidéo, le secteur au bord du game over. Vous êtes au courant de ça? À l'appel de la principale organisation du milieu, une mobilisation générale inédite est prévue aujourd'hui pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et de licenciement. Les salariés ont redécouvert le syndicalisme et entendent acter un nouveau rapport de force face à des dirigeants discrédités dans l'univers du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Humanité en parle aussi ce matin. C'est quoi? C'est page 13. Hop, viens petit, tu m'as. Page 13. Donc là, on est 17. Voilà. L'industrie du jeu vidéo ne doit pas nuire à ses salariés. Hein, déclaration de Pierre-Étienne Marx, syndicaliste, élu syndical d'Ubisoft. Alors, je n'ai pas, vu cette interview. Je n'ai pas vu qu'il s'appelait Marx. C'est très drôle. Qu'est-ce que... Pierre-Étienne, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Non, c'est drôle. Enfin bon, voilà quoi. Non, ce serait plus drôle s'il était chef, chef d'entreprise, s'il était chef d'une boîte du CAC 40, quoi. Ce serait plus drôle, en vrai. Là, on se dit, bah oui, normal. Oh, c'est drôle. Non, mais chef cuisinier, c'est pas drôle. Non, mais vraiment, genre, tu vois, si Musk s'appelait Marx, par exemple, ça, ce serait drôle, ça. Ça, ce serait drôle, quoi. Donc, voilà, je vous parlerai de cette grève, cet appel à manifester aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. Après l'UMA, sur ce sujet, on ira voir... Ah, le Figaro. Alors, Figaro, journal dont la ligne éditoriale est plutôt conservatrice, plutôt à droite, mais souvent je vous dis, attention, hein, avant de faire des généralités, oui, Figaro est un journal plutôt à droite, plutôt conservateur, mais ne pensez pas que tous les journalistes du Figaro soient de droite pour autant. Et parfois je retrouve dans le Figaro, sur un même sujet, deux articles aux analyses diamétralement opposées. Mais là c'est un peu... c'est cap à droite quand même ce matin, dans le Figaro, sur ce sujet. France, Europe, États-Unis, l'écologie politique... en échec. Du DPE dans les logements au ZFE dans les transports, les normes édictées au nom de l'écologie virent au casse-tête, partout les législations doivent être revues à la baisse. Ça, c'est un constat, mais surtout, le Figaro s'en félicite. Voilà. L'écologisme, selon Hazard, me dit donc rien sur le procès Ultia dans l'UMA papier. Il y a un papier, le jugement est tombé dans le procès Ultia ? C'est bizarre ce que tu dis, le délibéré devait pas être beaucoup plus loin. Je vais aller voir ça. Oui, mais le jugement est tombé, ça devait pas être plus loin. Il est tombé hier. Ah, je vais aller voir, ok. Je pensais que c'était beaucoup plus loin. Bon, on va aller voir ça. Bayrou, on va en parler, Chizen. Ok. Alors, il n'y en a pas dans la presse papier. C'est dommage. Il y a du ferme. Ouais. Tsuka, je... Je vais épingler le fait qu'on va parler de Bayrou ce matin, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne cessent d'arriver sans avoir entendu ce que je disais tout à l'heure, et je vais en parler. Vous voulez que j'épingle le fait qu'on va parler de Bayrou ce matin ou pas ? Non, mais c'est, parce qu'en fait, c'est toutes les deux minutes, quelqu'un me pose la question dans le chat. Comme tu veux, ben, je sais pas, à un moment, je vais... C'est une obsession, en fait. Épingle, oui. Non, c'était une blague. Bien sûr que je ne vais pas épingler. Non. Je ne vais pas épingler. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, oui, effectivement, l'écologie politique connaît des difficultés dans l'application, voilà, les normes, tout ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le Figaro s'en félicite. Et là, j'ai un édito qui est assez étonnant, que je vous lirai là-dessus, quoi. Voilà. Qui, pour moi, mélange tout. Mais peut-être que je me trompe. Voilà. Merci beaucoup, Quentin, pour le soutien. Merci, Néline, pour le cinquième mois. Merci, Squeezie Off, pour le sixième mois. À un moment, j'ai cru que c'est Squeezie qui avait ce... Merci beaucoup. Donc, on lira ça dans le Figaro, voilà, sur l'écologie. OK, ça, c'est le Fig. Ensuite, justement, pour vous dire que... ça dépend des jours, mais le Figaro, quand même, c'est un petit peu à droite ce matin. Bien, je veux dire. Je vais aller page 15. Alors ça, c'est une journaliste que j'ai croisée à Europe 1, moi, notamment, à une époque où je bossais à Europe 1. Eugénie Bastier, enfin, journaliste essayiste aussi. Et là, Eugénie Bastier tente de répondre à cette question, qu'est-ce que être de droite ? Et elle se penche sur un livre écrit par une autre journaliste, qui s'appelle Laetitia Strauss-Bonnard, qui développe sa vision d'être de droite, quoi, du libéral-conservatisme. Et en fait... Eugénie Bastier nous dit être de droite, c'est avoir tout compris, quoi. C'est un peu être dans le camp du bien, quoi. Un peu dans le camp, pas le camp des ouin-ouin, quoi. C'est un petit Eugénie Bastier nous dit ça. Mais être de droite, c'est plutôt être dans l'action, dans le positif, et pas dans le camp du ressentiment et du ouin-ouin. Voilà. Donc, Eugénie Bastier, c'est quelqu'un qui porte une pensée très à droite, quoi, vraiment radicalement de droite, et que je ne vous lis pas souvent, mais ce serait intéressant de voir que. Voilà. Ouais. Voilà. C'est assez. Je n'invente rien. Hein. Être de droite, c'est prôner. Je vous lis un extrait. Être de droite, c'est prôner l'indulgence plutôt que l'intransigeance. C'est prôner le pardon plutôt que la rancune. C'est se définir plutôt par ses joies que par ses souffrances, par ses liens que par ses droits. C'est un imaginaire de la perte plutôt que de la promesse. Après 40 années de gauchisme culturel, la France, c'est 40 années de gauchisme culturel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça fait 40 ans que c'est le gauchisme culturel en France. Jamais il n'a été aussi nécessaire en France d'emprunter la route de la gratitude plutôt que de la servitude. Voilà. Donc voilà. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est une définition de la droite par Eugénie Bastier, je vous la lirai ce matin. Figaro qui ce matin est assez voilà, par là quoi. Ok, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, alors là je reviens en arrière, ce que je ne fais jamais, mais hier dans l'Opinion, j'avais un article, une tribune de Denis Oliven, qui est à la fois un essayiste mais aussi un chef d'entreprise, il a dirigé plein de boîtes. Et là, qui écrit sur la valeur travail en France et il propose une réforme de la fiscalité que je trouve intéressante en disant peut-être qu'on taxe trop le travail, les gens qui travaillent, et peut-être qu'il faudrait taxer d'autres personnes. Alors, qui taxer si on ne taxe pas le travail ? Moi, j'ai trouvé ça pertinent. J'étais frustré hier de ne pas avoir lu cet article. Eh bien, je vous l'ai remis ce matin de côté dans l'Opinion. OK ? Et puis après, vous allez me dire, mais Samuel, n'arrête pas de revenir en arrière. Oui, parce que je suis mécontent des articles bilan sur le sommet de l'IA qui a eu lieu à Paris. Et je pense avoir trouvé dans Le Monde, la dernière édition du Monde. Alors là, il faut passer le firewall du Monde. Donc voilà, Le Monde, en ce moment, c'est compliqué. Oui, là, c'est écran noir. Mais Samuel Etienne est un ingénieur en informatique. Et donc, il sait a priori passer le firewall du Monde. Donc attention, tentative. Paf! Incroyable. Samuel Etienne, du paf au hack. Je le pique au chat. Donc voilà, donc le firewall est contourné et on ira voir donc ces pages 15. Waouh! Donc c'est par là, faut aller vite. Un petit bilan du sommet sur l'IA qui a l'air pas mal. Non, c'est pas là, c'est pas page 15, c'est. Où est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai noté page 15 ? Je me suis trompé. Il faut que je le cherche alors. J'ai pas mis la bonne page. Non, au début c'est l'international. Je pense que c'est après. Là, vous voyez tout ce qu'il y a dans le monde. Il y en a des choses. Hein. Ah si, page 15. Ah ben c'est moi qui n'avais pas vu la bonne page. Ah ouais, ok, page 15. Il y a un sommet parisien qui acte les divisions et je pense que là on a un bon papier sur le sommet de l'IA. Jusque-là j'étais un peu frustré. Voilà. Et on ira voir un édito aussi dans Le Monde sur le même sujet que je n'ai pas lu encore mais qui a l'air sympa. Voilà, intelligence artificielle, la nécessité d'une troisième voie. Et puis on finira avec la moto, la bécane, ouais. Ouais, on va parler de bécane, c'est dans quoi ? C'est dans les Échos, je crois ? Ouais. Non, pas dans l'équipe, Samuel. Ouais. Alors moi, je fus un passionné de moto, j'ai roulé en moto toute ma vie. Bon, je roule plus maintenant pour des raisons de sécurité, parce que je suis papa, tout ça. Puis je dors pas assez, donc je trouve que je suis trop fatigué pour rouler au quotidien en moto, surtout à Paris. Donc j'ai vendu toutes mes bécanes, mais bon, il y a un passé. Voilà, c'est une culture que j'aime bien. Et là, on a page 25 dans les Échos. C'est où, ça ? Ouais. Un spécial moto, pourquoi il y a un salon de la moto ? Oh, je me suis encore gouré, c'est pas dans les Échos. Ah non, c'est dans l'équipe ! C'est dans l'équipe. C'est là. Voilà, salon du deux roues. Je passe mon plateau demain. Force ! Frenchie, ah, j'en ai passé du plateau. Voilà, il y a un salon de la moto à Lyon, et donc du coup, ils font un dossier sur on en est des nouveautés sur la moto. Alors, moi, ça tombe bien parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un magazine moto. À une époque, j'achetais tous les magazines moto, je connaissais le dernier boulon de la dernière moto de n'importe quelle marque sortie, c'était une vraie passion. Voilà, Et donc là, là je, comme ça, je vais me mettre, c'est purement égoïste, hein, je vais me mettre un petit peu au courant des dernières bécanes sorties. Moi, je reproche cet univers de ne pas trop se réinventer, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Là, quand je vois les bécanes, alors je vais peut-être changer d'avis tout à l'heure, mais moi qui suis cet univers depuis très longtemps, et en fait, je trouve que c'est un peu. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui révolutionne ce marché, quoi. Ouais, je trouve. Ouais. Est-ce que j'ai fait une star, un slider sur Einstein avec Bader? Ouais. Ouais, j'ai fait ça, ouais. J'ai fait de la piste avec Bader, ouais. Ouais. Bader, c'est quelqu'un qui avait une émission sur la moto. Il invitait des personnalités qui avaient leur permis moto à faire du circuit pour la première fois de leur vie. Voilà. Et j'ai été, c'était sur le circuit du Castelet, et dans l'histoire de cette émission, j'ai été le premier à poser le genou sous la pluie sur le circuit du Castelet dans les personnalités. Voilà. Parce que ce jour-là, il pleuvait. Alors, j'avais des pneus pluie qui étaient incroyables. Voilà. Alors, j'ai posé le genou, j'ai aussi posé la moto, hein, parce que j'ai fait de la reconnaissance avant de prendre la grosse. C'était une Aprilia en full qu'on voyait un petit peu. On avait fait la reco du circuit en 125. Et je me suis pris un petit vribeur sous la pluie. Donc là, j'ai posé tout. J'ai posé toute la moto. Mais ça, Bader était un peu inquiet, mais moi, après, j'avais l'habitude de bien poser, quoi. Je pose bien, moi. Je pose tout. Je pose le cale-pied, je pose tout. Quand je pose, je pose. Donc ça, on avait bien rigolé. J'ai posé l'épaule, tout, tout, tout. Je casse tout. Moi, je pose tout. Je sais pas si on peut trouver ça, moi. Attends. Est-ce que je peux vous trouver ça ou pas? Je suis pas sûr de retrouver l'extrait. Pas que je l'ai. Ça, je tombe sur des vieilles photos, par contre, c'est marrant.
Non, son mental de sportif.
Ah, je l'ai si je trouve un truc. Donc, Samuel au Castelet, sous la pluie. Je suis devant, Bader est derrière. Ok?
Celle-là, je la sens, celle-là.
Samuel est impressionnant. Son mental de sportif lui permet de surpasser ses peurs et de rester ferme face à l'enjeu.
Garde la vitesse.
Ah, pas beaucoup, hein?
Ouais, mais c'est bon, tu l'as touché, mec.
Un tout petit peu. Un tout petit peu.
Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait là?
Ben non, pas trop.
Il y a quelques...
C'était voilà, c'était compliqué parce que la moto était très haute. Voilà, et c'était sous la pluie, j'avais jamais fait de circuit et j'arrivais pas à poser le genou. Voilà. Et vraiment, j'ai dit, j'en ai rien à foutre. J'avais mon avion dans 1 heure, on était pris par le temps. Il restait un tour et là, dans ma tête, j'ai dit, j'en ai rien à foutre. La moto, je vais peut-être la poser par terre entièrement, mais à un moment, on va poser le genou. Voilà. Et j'ai posé le genou. Et après, je me recoiffe, bien sûr, pour être beau. Voilà. Donc, on parle un petit peu de moto ce matin. Bon. Ça, c'était dans une autre vie. Hein. C'est quand j'étais un biker.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça?
Est-ce que vous êtes prêts? Qu'on fait la revue de presse? On y va? On va passer par, on va commencer par cette histoire de fou là. Ma petite Louise. C'était après l'Archiakuza. Enfin, au Japon, je faisais de la moto aussi, mais c'était compliqué. Merci Quentin. J'ai le temps pour une pause pipi? Martin, mais très vite, hein. Te lave pas les mains par contre, hein, ça, tu vas être trop juste. Fonce, 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 fonce! À quel âge tu as commencé à avoir les cheveux blancs? Avant 30 ans, Quico, ça a commencé très tôt, quoi. Il y a un yes baby? Ok.
Tu es tellement calme devant nous, mais à l'intérieur de toi, c'est le 14 juillet de la vie. Salut Sugar Frog, bonne réunion. Mon copain s'est acheté une Yamaha Ténéré, très bonne moto. Il va faire une traversée de l'Afrique, je bouffe du contenu moto matin, midi et soir à cause de ça. Des matosades. Ah, ça pourrait être pire, hein, il pourrait avoir une passion bien moins sympa. Imagine, c'est un gamer, quoi. Tu vois. Big Brother, bonjour, comment peut-on imaginer que la simple frustration d'avoir perdu à Fortnite a été le mobile du meurtre? Bah, faut être. Bah, si, c'est possible quand t'es totalement débile, ouais. C'est possible, bien sûr. Allez, on y va. Bon, cette histoire dramatique, là, on va essayer de ne pas se mettre en colère. Personne n'a dit ça encore une fois? Si, si, plein de gens, Tony Kerr. Plein de gens. Ou le laisse entendre très très fort. Ils peuvent pas le dire de façon affirmative, parce qu'aucune étude scientifique ne corrobore cette pensée qui n'a aucun sens. Voilà. Mais ils le disent très très fort. Ils, ce sont certains médias, bien sûr. Le Parisien, meurtre de Louise, l'effroyable scénario. Owen, elle, 23 ans, a reconnu avoir poignardé la collégienne après avoir paniqué. Il assure qu'il voulait juste racketter une personne pour se calmer après une dispute lors d'une partie de jeu vidéo en ligne. Ça, c'est l'excuse que lui met en avant. Obsédante question, c'est l'édito de qui ? De Laurence Voyer, la rédactrice en chef du Parisien ce matin. À chaque drame, les mêmes questions lancinantes. Pourquoi ? Pouvait-il être évité ? Louise, 11 ans, 11 ans, rentrait chez elle après ses cours comme le font chaque jour des centaines de milliers de collégiens, un retour sans danger, quelques minutes à pied en plein jour dans un environnement familier, le témoin potentiel sont nombreux. Ses parents avaient même pris soin de l'équiper d'un système permettant de géolocaliser son téléphone portable. Impossible de faire plus, de protéger davantage son enfant, de mieux accompagner ses premiers pas de pré-ado vers l'autonomie, de la laisser grandir. Au premier signe d'inquiétude, la famille de Louise a donné l'alerte. Immédiatement, les recherches ont commencé, mais cela n'a pas suffi pour la sauver. Qu'est-ce qui a traversé la tête du meurtrier présumé Owen, elle, pour porter avec sauvagerie une dizaine de coups de couteau à une gamine qu'il ne connaissait pas, bien qu'elle soit presque sa voisine? Le procureur de la République d'Evry, Essonne, évoque un jeune homme agressif se disant lui énervé par une altercation lors d'un jeu vidéo en ligne. Une justification aussi effrayante que dérisoire. Même s'il aurait été difficile de concevoir que les excès de leur fils pouvaient déboucher sur le meurtre d'un enfant, les parents d'Owen L. connaissaient ses accès de violence. Leur fille cadette en avait été victime, donc la fille d'Owen, la sœur d'Owen, hein, avait déposé plainte contre son frère dans le passé et ne lui parlait plus. Un suivi médical psychiatrique aurait-il pu éviter cette issue fatale? C'est ça les bonnes questions. On ne saura jamais, une autre question, une de plus obsédante et sans réponse. Les 15 minutes d'un crime insensé, donc on va se pencher d'abord sur les faits. Pour les analyser, il faut d'abord connaître les faits. Présenté à un juge d'instruction hier soir, Owen L. a expliqué avoir massacré Louise dans le but supposé de la racketter et d'évacuer une frustration liée aux jeux vidéo. Des explications qui semblent simplistes au regard de l'horreur du crime. Donc très vite, le Parisien dit à ses lecteurs que l'explication avancée par le meurtrier, évacuée notamment une colère liée aux jeux vidéo, elle est simpliste et elle ne suffit pas à expliquer le crime. Merci le Parisien. Certains médias ne prennent pas ces précautions. 15 minutes pour basculer dans l'horreur et dans une souffrance infinie, 15 minutes pour briser une famille, prendre la vie d'une gamine innocente de 11 ans. Il est 13h50, vendredi, lorsque Louise quitte son collège d'Épinay-sur-Orge, la jeune fille s'apprête à rentrer chez elle, à peine 10 minutes plus loin. Elle envoie un SMS à une amie pour lui souhaiter un bon week-end. 8 minutes plus tard, 13h58, elle traverse un passage piéton près de son domicile. Sur les images de vidéosurveillance, un homme vêtu d'une casquette et d'une doudoune noire semble la suivre. Ce garçon de 23 ans, c'est Owen L., étudiant en BTS informatique, amateur de foot et de boxe. Il passe des heures et des heures chez ses parents à jouer aux jeux vidéo. Et ce funeste vendredi, une nouvelle fois, Owen est énervé. Il vient d'insulter un de ses adversaires de Fortnite. Moi aussi, j'insulte mes adversaires sur Valorant. Hein. Est-ce que le jeu vidéo fait de moi un meurtrier ? Non, bien sûr. Quand la game s'arrête, j'arrête d'insulter les gens. C'est le jeu qui produit ça. Mais dans le jeu, dans le jeu.
Il vient d'insulter un de ses adversaires de Fortnite, un jeu en ligne prisé des jeunes qui met en scène une sorte de champ de bataille sur lequel les joueurs s'affrontent avec des avatars. Alors comme souvent, il sort pour prendre l'air. Au passage, il attrape sa casquette, sa doudoune noire, dans laquelle il garde un Opinel. Hein ? Pour quelle raison ? Très bonne question. Très bonne question. Owen est en tout cas énervé, en colère, pour passer ses nerfs et se calmer. Il envisage, dira-t-il, de racketter le premier venu. Voilà. Est-ce que c'est le jeu vidéo qui donne envie à quelqu'un de sortir racketter quelqu'un ? Non. Voilà. Louise arrive alors dans son quartier. Autour de son cou, un téléphone portable aperçu par le suspect, Owen décide de la suivre, puis l'emmène dans le bois des Templiers pour dérober, selon lui, ses affaires. Alors qu'il commence à fouiller son sac, Louise crie, tente de se défendre, c'est sa version à lui, bien sûr, hein, puisque elle n'est plus là pour témoigner. Owen la frappe, la fait tomber au sol, puis lui assène de nombreux coups de couteau. Il vise des zones vitales avec une extrême violence, selon les mots de Grégoire Dulin, le procureur de la République. Il est 14h07 lorsque le téléphone portable de la mineure s'éteint. Trois minutes plus tard, la maman de Louise inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Trois minutes plus tard, hein, les parents étaient super réactifs. Consulte une application de géolocalisation sans résultat. L'angoisse gagne. Louise, décrite comme sérieuse, discrète, prudente, n'est pas du genre à laisser ses parents sans nouvelles. Sa mère contacte le collège, puis ses autres enfants qui signalent la disparition de Louise sur les réseaux sociaux. À 15h56, la mère de famille signale l'absence de Louise au commissariat de Savigny. La nouvelle terrible tombe à 1h50 du matin, samedi, lorsque le corps de la collégienne découvert sans vie dans le bois des Templiers. Son sac à dos, son téléphone portable sont découverts à proximité du corps, écartant très vite la piste d'un crime crapuleux. Louise n'a pas subi d'atteinte sexuelle, écartant a priori aussi ce mobile. Ne reste que la rage folle d'un jeune homme jusqu'ici connu des autorités pour deux vols minables. Alors que le choc gagne l'Essonne, Owen, elle, a déjà commencé à masquer son crime. Immédiatement après avoir poignardé Louise, le jeune homme rentre chez lui en courant. Il demande de l'aide à Lauriane B., sa petite amie, et lui demande de descendre sans crier. Owen est blessé à la main, du sang macule son menton. Lauriane B., 24 ans, lui pense la main et Owen se confie, lui glissant avoir porté plusieurs coups de couteau à une collégienne. Au même instant, la sœur cadette d'Owen arrive au domicile familial. Selon son témoignage, il est 14h10 lorsqu'elle voit rentrer son frère aîné qu'elle décrit comme un garçon violent, nerveux, agressif, avec qui elle s'est sérieusement brouillée depuis un épisode de violence qui avait entraîné le dépôt d'une main courante en avril 2023. Hein ? À son arrivée chez elle, elle entend Owen et sa petite amie pleurer. Que se passe-t-il alors dans cette famille ? Question. Que se passe-t-il alors dans cette famille jusqu'ici sans histoire, vivant juste à côté de la famille de Louise ? Owen, elle, assure à ses parents, dont la mère est DRH d'un grand établissement culturel parisien, le père au cadre dans une banque, que sa blessure à la main remonte à quelques jours et résulte d'un accident domestique. Tout commence à basculer le dimanche 9 février. Après une battue organisée dans le bois, les policiers de la PJ de Versailles organisent une opération de porte-à-porte. Les policiers sont pris d'un doute. Le jeune homme présente une ressemblance. Je vois un dur de vivre dans un pays pareil, évidemment, des criminels et des fous alliés, ça n'existe qu'en France. Merci pour ce commentaire. Les policiers sont pris d'un doute, le jeune homme présente une ressemblance troublante avec le rôdeur en doudoune aperçu suivant Louise sur les images de vidéosurveillance saisies par les policiers. Donc, GG les policiers, quoi. Ils trouvent que le jeune homme, qu'ils les aperçoivent dans la maison, ressemble un peu aux images de vidéosurveillance qu'ils ont saisies. Surtout, il présente des coupures à la main. Mais tout le monde assure qu'Owen L., qui est tout le monde intéressant, n'a pas quitté la maison le funeste vendredi. Donc ça veut dire que la famille le couvre, a priori. Hein. Dans le doute, les policiers prélèvent quand même l'ADN du jeune homme. Le lendemain matin, les soupçons des policiers se renforcent. La voisine, une voisine, certifie avoir reconnu Owen sur les images de la caméra. La rumeur de l'implication du jeune homme se répand, si bien que des élus locaux appellent même le parquet d'Evry en disant tenir un suspect. Les enquêteurs voulaient, eux, attendre une comparaison génétique entre l'ADN de Owen et la trace génétique inconnue prélevée sur la main de Louise, mais décision est prise de précipiter l'interpellation du jeune homme qui se tient lundi à 20h. Sa sœur, sa petite amie. Ses parents sont eux aussi conduits au commissariat. La sœur d'Owen s'épanche sur ce frère imprévisible, capable d'accès de colère soudain en jouant aux jeux vidéo, à qui elle ne parle plus depuis près de 2 ans et l'épisode de violence, moins coopératif. La petite amie et les parents du suspect sont finalement placés en garde à vue durant la nuit, mais Owen, lui, tient bon durant 24 heures. Mardi matin, les expertises ADN tombent. L'ADN d'Owen est bien celui prélevé sur les mains de Louise. En parallèle, la petite amie du suspect finit par révéler aux policiers les confidences faites par Owen vendredi. Cerné par les indices, Owen avoue mardi soir son implication. Il relate aux policiers être sorti de chez lui en colère après son altercation sur Fortnite et avoir croisé le chemin de Louise qu'il prétend n'avoir pas eu l'intention de tuer au départ. Il confie avoir jeté ses vêtements et l'arme du crime dans une poubelle. Hier soir, Owen a été mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans. En fait, c'est sur mineur de moins de 15 ans, mais pénalement on dit comme ça. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. La petite amie Lauriane a été mise en examen pour non-dénonciation de crime. Les parents, eux, ont été libérés sans suite. Malgré ses aveux. XAP, il faut écouter. Il faut que tu écoutes l'article. Malgré ses aveux et la résolution de cette enquête exceptionnelle par la PJ de Versailles, on peut dire que les policiers ont fait un bon travail, je pense, de nombreuses questions restent en suspens. La simple frustration liée aux jeux vidéo peut-elle expliquer les ressorts de la barbarie du crime imputé à Owen ? Ou n'est-ce qu'un élément déclencheur de la furie d'un jeune homme dont la personnalité recèle encore des secrets ? Hein ? Si tous les joueurs de Fortnite étaient des tueurs en puissance, ça se saurait. Il y a les joueurs de Fortnite, là ? Vous voulez tuer des gens ou pas ? L'explication paraît évidemment, dit le Parisien, trop simpliste pour comprendre cette horreur insensée, d'autant qu'il semble s'être acharné sur Louise et ne lui avoir laissé aucune chance de survie. La personnalité du meurtrier devra forcément être confortée par les futures expertises psychiatriques qui seront diligentées durant l'instruction. Ses recherches internet et l'exploitation de son téléphone seront capitales pour cerner son état d'esprit au moment du crime. Mais déjà, des questions se posent sur ces étranges pulsions. 3 jours seulement avant la mort de Louise, Owen, elle, avait déjà abordé une collégienne de 12 ans avant de lui demander de l'accompagner dans le bois des Templiers. Là encore, selon lui, pour la racketter. À moins que le but de ces guet-apens avérés soit tout autre et qu'il cache des pulsions moins avouables de mort ou de sexe. Voilà. Quand on va voir le traitement sur cette même actualité du Figaro, là je vais vous lire une interview dans le Parisien dans un instant d'une psy qui dit que les jeux vidéo ne sont pour rien dans ce meurtre. En revanche, quand on va voir le Figaro, j'ai l'impression que le traitement n'est pas tout à fait le même. Je vois un titre qui dit accro aux jeux vidéo, ce sont les premiers mots. Un jeune homme de 23 ans a tué une fillette et les premiers mots de l'article, les premiers mots du titre, c'est accro aux jeux vidéo. Qu'est-ce que vont retenir les lecteurs du Figaro ? Ce sont les premiers mots. Au début d'une phrase, dans un journal, on met les infos les plus importantes. Donc les infos les plus importantes, c'est que ce tueur est accro aux jeux vidéo ? Il aurait été, adepte du curling. Est-ce que le Figaro aurait écrit « Adepte du curling, violent, agressif, Owen a déchaîné sa colère contre Louise » ? Est-ce que le gars aurait été joueur de belote ? Est-ce qu'on aurait vu « Joueur de belote, violent, agressif, Owen a déchaîné sa colère contre Louise » ? Il aurait fait du tricot. Est-ce qu'on aurait eu « Adepte du tricot » ? Non, bien sûr. Donc, question. Donc, ce titre, il n'est pas innocent. Voilà. Qu'est-ce que dit l'article ? Est-ce que l'article est un petit peu... Défécateur nous dit, salut Défécateur. À défaut de pouvoir écrire sous OQTF, ça permet de faire une stigmatisation facilement. Voilà. Qu'est-ce que dit l'article ? Peut-être que... Parce que parfois, l'article ne reflète pas forcément le contenu, ce qui est dommage, mais ça c'est un des trucs que je reproche à certains journaux, d'ailleurs. Je cherche l'article qui évoque les jeux vidéo.
«
C'est génial parce que l'article n'en parle pas. C'est encore pire. C'est encore pire. Si au tout début, voilà, le mobile du meurtrier de Louise calmait sa colère après une dispute avec un joueur en ligne à l'occasion d'une partie de Fortnite. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'explication du Figaro du meurtre, c'est l'explication du meurtrier. Voilà. Et à la fin, effectivement, quelqu'un me le dit, en BTS informatique, il joue aux jeux vidéo de manière intensive, reconnaissant lui-même qu'il pouvait être pris de violente colère. Donc le jeu vidéo est au début et à la fin de l'article. La théorie avancée par le meurtrier lui-même, c'est la faute des jeux vidéo, j'ai été pris d'un accès de colère parce que je jouais à Fortnite, est reprise telle quelle par le Figaro. Voilà. Sans bémol. Ce que le Parisien fait bien ce matin en disant, voilà, ça c'est la justification du meurtrier. Hein, pris d'un accès de colère suite à une partie sur Fortnite. Ça, c'est comme ça que le meurtrier essaie de se dédouaner au niveau des enquêteurs. Voilà. Le Parisien met des bémols dans son article en disant non, ça suffit pas à expliquer ce genre de crime. Et le Figaro ne met pas ce bémol. C'est ce que je reproche à cet article. Et le Parisien va plus loin et donne la parole à une psychologue qui s'appelle Vanessa Lalo, spécialiste des pratiques numériques. Et là, le titre est extrêmement clair. Cette dame dit « Il n'y a pas de causalité entre jeux vidéo et passage à l'acte violent. » Voilà. Pour ceux qui s'interrogent sur le sujet, je répète doucement les mots. Ça, c'est dans le Parisien. « Il n'y a pas de causalité entre jeux vidéo et passage à l'acte violent. » Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des pratiques numériques. Owen, elle, 23 ans, soupçonné du meurtre de Louise, 11 ans, est décrit comme un jeune homme perturbé, violent, accro aux jeux vidéo. Psychologue, clinicienne, spécialiste des pratiques numériques, Vanessa Lalo met en garde contre l'idée répandue, selon laquelle la violence virtuelle contaminerait le monde réel. Lisons. Question du Parisien, très clair. Y a-t-il un lien de cause à effet entre jeux vidéo et violence ? Vanessa Lalo, absolument pas. Il n'y a pas de causalité entre jeux vidéo et passage à l'acte violent. Toutes les recherches scientifiques, longitudinales, sur 10 ans, le montrent. Dans le cas du meurtrier présumé de Louise, on sait qu'il jouait à Fortnite, qui est déconseillé au moins de 12 ans, mais pas au moins de 18 ans. Il n'est pas considéré comme violent. Ce qui m'interpelle plutôt, c'est l'âge du mis en cause, 23 ans, qui correspond à la tranche où se déclenchent souvent des maladies mentales comme les schizophrénies. Hein, on aurait voulu lire ça dans le Figaro. Merci beaucoup à Anout pour ton message. Anout. D'où vient l'idée, du coup, relance le Parisien, si répandu que les jeux vidéo font mauvais ménage avec la santé psychique. C'est intéressant comme échange. Dans ce genre de crime abominable, sur un enfant, la société veut trouver un coupable extérieur, en plus de la personne qui a commis les faits. C'est une manière de noyer le poisson, et souvent une stratégie employée pour minimiser la responsabilité pénale de l'accusé, ce que lui a fait tout de suite d'ailleurs auprès des enquêteurs. Question du Parisien. À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des meurtres directement liés ou inspirés par les jeux vidéo ? Réponse de la psy. Il y a eu une utilisation du jeu vidéo à des fins stratégiques. Ça a été le cas pour le tueur de masse Anders Behring Breivik en Norvège. Vous vous rappelez du dingo, là ? Ils s'en étaient déjà servis pour regarder quelles pouvaient être les trajectoires d'une foule quand elle se disperse afin de faire un maximum de victimes. Mais le jeu n'a pas poussé cette personne à commettre des crimes. Il a été un simulateur, un outil. Voilà. Est-ce qu'un usage excessif du jeu vidéo, moi ça m'intéresse, peut aggraver la dépression ou l'isolement ? Les critères internationaux pour définir l'addiction parlent d'une altération de tous les domaines de la vie sur une durée d'au moins 12 mois. En dessous, et dans la grande majorité des cas, on préfère plutôt se référer à la psychopathologie. La prétendue addiction masque souvent autre chose, une incapacité à gérer sa frustration, une anxiété, une dépression, une phobie ou sur le versant psychiatrique, des troubles psychotiques. Voilà. Donc, que peut faire l'entourage ? Très bonne question. Déjà, arrêtez de mettre les troubles sur le compte de fausses causes. Hein. La psy nous dit, c'est pas parce que votre enfant joue aux jeux vidéo qu'il a des comportements qui posent question. Hein. Ses vulnérabilités méritent une prise en charge de santé mentale. Mais bien souvent, l'entourage est le moins bien placé pour agir, d'où l'importance cruciale de l'action publique sur ces sujets. Malheureusement, la France a réduit tous les budgets de prévention. On a de moins en moins de psychiatres et d'énormes difficultés dans l'accès aux soins. Plutôt, comme le font certains médias, s'interroger, voire dénoncer le manque de moyens accordés à la santé mentale en France, il est quand même beaucoup plus simple d'accuser les jeux vidéo. Elle ne le dit pas, mais j'ai le droit de le penser. L'Essonne où s'est déroulé le meurtre est un désert médical. Je me demande combien de faits graves il faudra pour que l'on fasse quelque chose. Voilà. Je trouve que le traitement du Parisien de cette dramatique affaire est OK, quoi. Je vous lis. Tuchman dit en France, c'est tabou d'aller voir un psy, dans d'autres pays, c'est comme aller chez le dentiste. C'est vrai. L'article ne parle pas des médias d'extrême droite. Moi, je vais en parler, la carotte sévère. Moi, je vais en parler. On va aller plus loin sur ce sujet. Ouais. On va aller plus loin sur ce sujet. Samuel, est-ce que toi aussi, tu avais ces préjugés sur le jeu vidéo? Non. Moi, à la base, j'ai pas trop de préjugés, moi. Mais maintenant, je connais un peu mieux cet univers. Ok. Il y a une autre affaire dans cette affaire. Voilà. Dont parle Libération ce matin. C'est page 18. C'est la récupération politique qu'ont tenté de faire certains sur cette affaire. Je le trouve à la fin de cet article de Libération. Tout au long de l'enquête, Libération, page 18. Le procureur a communiqué afin d'éviter que la rumeur ne s'emballe. Ce qui n'a pas empêché plusieurs médias d'extrême droite, du journal du dimanche, le JDD, à Valeurs Actuelles. Régulièrement, il y a des gens qui popent dans le chat en me disant « Mais pourquoi tu lis pas Valeurs Actuelles? Pourquoi tu lis pas le journal du dimanche ?» De publier l'identité de l'homme qui a été un temps mis en cause et qui était innocenté, décrit comme de type nord-africain. Tandis que le nom de la femme décrit de type européen, lui n'avait jamais fuité. Parce qu'à un moment, il y a un homme et une femme qui ont été soupçonnés. Une femme de type européen, son nom n'a jamais été balancé, mais il y avait un gars de type nord-africain, et lui, à un moment, son identité a fuité sur ses médias. Donc ça, c'est un petit passage dans Libération. Mais moi, ça m'a rappelé des infos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, parce que et qui ont popé jusqu'à moi, et c'est comme ça que c'est d'abord comme ça que j'ai entendu parler de l'affaire Louise. Si vous tapez, voilà, si vous allez sur Twitter par exemple, et vous tapez par exemple Louise extrême droite, vous allez voir les tweets que certains ont écrits dans cet univers de l'extrême droite. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Jordan Florentin qui a écrit au début de cette affaire plusieurs tweets de Marianne. Marianne, c'est la sœur de la petite Louise. La petite Louise, elle a une sœur qui s'appelle Marianne. Plusieurs tweets de Marianne, de la petite Louise, victime d'un ignoble francocide. Donc, cette personne affirme déjà que c'est un meurtre de Louise parce qu'elle était française ou blanche. Cette personne a écrit ça. Et Defecator me dit, pire que ça, il a écrit un article ou un tweet où il balançait le nom de la personne interrogée par la police à tort. Voilà. refont surface. La militante d'extrême gauche, là qu'on parle de la sœur de la victime, il partage les positions de LFI et ses propos anti-RN. Sa petite sœur vient d'être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. Cet homme a écrit ça. Moi, je ne suis pas ce Jordan Florentin, mais il y a quelques jours, j'ai vu passer ce message. C'est-à-dire que l'algorithme de X de Twitter m'a amené sous mes yeux ce message, sans doute parce qu'il avait un certain succès. Voilà. Donc, alors c'est un message parmi d'autres. Hein. Attends. Bon, manifestement, ce monsieur, il avait aussi renommé son passe sanitaire à l'époque de la crise sanitaire en Adolf Hitler. Voilà, et là j'ai des tweets d'internautes, hein. Un dénommé François, voilà. La sœur de la petite Louise était une gauchiste avec un compte X dédié à attaquer le RN. Elle est responsable de la mort de sa sœur, tout comme leur père, car oui, quand l'insécurité qui est un fantasme de l'extrême droite vous touche, c'est trop tard. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ces propos, quoi ? C'est pas le mot violence, il est... La sœur de la petite Louise, de l'extrême gauche la plus crasse, celle qui a du sang sur les mains, c'est triste. Apparemment, la sœur de cette pauvre gamine est très à gauche. Le partage de la publication sur Philippine est d'autant plus triste quand on sait que sa sœur a subi le même sort, etc. Et des messages comme ça... Oh là, putain, celui-là, il est dingue. Donc là, en fait, c'est les gens qui répondent à Marianne, qui a supprimé son compte Twitter depuis. Elle est morte à cause de tes idées de mère. Désolée, Louise, ta sœur fait partie du problème à cause duquel tu as été assassinée. C'est triste, mais cette pauvre Louise est peut-être morte car elle a été éduquée par des gauchistes. Ces gens existent. Apprenez à vos enfants à éviter certains endroits, certains profils d'individus, ça pourrait leur sauver la vie. Voilà. Donc moi, j'ai entendu parler de l'affaire Louise d'abord comme ça. Et pourtant, je ne suis pas ces gens. Donc, question aussi sur l'algorithme de Twitter qui pousse en avant ce genre de message. Je ne suis pas ces gens, moi. Et alors, on me dit que Jordan Florentin a écrit un article. Sachez que M. Florentin a supprimé son message depuis. Donc peut-être que l'article a été supprimé également, je sais pas. Où il donnait l'identité de la personne, quoi. Moi, je pose la question. Plutôt que les jeux vidéo, est-ce que Twitter ne participe pas de l'aggravation de la violence dans le monde, quoi. Voilà. Et c'est ce qui est fou, c'est que moi, c'est d'abord comme ça que j'ai appris cette affaire. C'est-à-dire, c'est d'abord par ces tweets, hein. En passant rapidement sur Twitter, sur X, il y a quelques jours, que j'ai entendu parler de l'affaire Louise, de cet assassinat. Donc ça veut dire que plein de gens ont eu connaissance de cette affaire avec ces fake news. Voilà, je ne suis pas le seul, manifestement. Donc il y a plein de gens qui ne vont peut-être pas suivre cette affaire, qui ne vont peut-être pas lire Le Parisien ce matin, qui... Vont peut-être garder en tête pendant un certain moment que « Ah oui, j'ai vu que le meurtrier de la petite Louise était d'origine nord-africaine, par exemple. Voilà. » Et puis après, il y a les gens qui vont lire les journaux un petit peu vite et qui vont dire « Alors, ils ont au courant que c'est pas quelqu'un d'origine nord-africaine, mais par contre, le mec, c'était un fou de jeu vidéo, donc le fameux jeu vidéo qui rend violent. » Quoi. Waouh. Voilà. Donc là, il y a un petit souci, quoi. Donc, quand on dit « lutte contre les fake news », quand on dit attention aux algorithmes des réseaux sociaux, quand on dit attention à ceux qui désinforment, qui mésinforment, ceux qui sciemment ou volontairement ou involontairement comment meurtre, pas assassinat. On ne sait pas encore, Pascal. On ne sait pas s'il y a préméditation. Ça, c'est lui qui dit. Hein. On n'est pas obligé de croire le meurtrier. Vous voyez, c'est des vrais sujets, quoi. C'est des vrais sujets, quoi. Voilà. Bon, je voulais en parler avec vous ce matin. Je pense que c'était essentiel, quoi. Alors, là-dessus, le hasard fait que, dans Libération ce matin, je vois un article qui m'a un peu surpris, qui dit que la diffusion des fake news vient plus de la droite radicale que de la gauche radicale. C'est une étude scientifique qui dit ça. Je voulais m'interroger, je voulais me pencher un petit peu là-dessus. C'est page 22 dans Libé. Puisqu'on parle de désinformation ce matin, je me dis, tiens, bon, parlons-en. Voilà. Réseaux sociaux, plus un parti est à droite, plus il diffuse des fake news. Merci Payou, merci Quentin. La désinformation en ligne fait partie intégrante de la stratégie des droites radicales, tandis que les formations du gauche, qu'elles soient radicales, écologistes ou social-démocrates, ont moins recours à cette pratique. Ils ne disent pas qu'ils n'ont pas recours du tout, mais moins. Selon une étude récente réalisée par des universitaires néerlandais. Ce n'est pas qu'une impression récurrente, les populistes d'extrême droite sont bien de loin ceux qui propagent le plus de fake news sur Internet. La désinformation fait même partie intégrante de la stratégie de communication de cette force politique, selon une étude néerlandaise qui a analysé 32 millions de messages postés sur Twitter, hein, X. Le réseau social par des parlementaires de 26 pays. Donc les messages qui ont été étudiés, ce sont les posts sur X, sur Twitter, de parlementaires de 26 pays. L'étude repose sur l'analyse de tous les tweets publiés entre 2017 et 2022 par tous les députés possédant un compte X dans ces pays, comprenant 17 membres de l'Union européenne, France, Allemagne, Italie, Suède, Royaume-Uni, Turquie, États-Unis, Canada, Australie. À l'époque où le Royaume-Uni était encore au sein de l'UE, quoi. Au total, 8198 parlementaires, c'est juste énorme, hein, ont vu leur tweet passer à la moulinette. Cet ensemble de données a ensuite été combiné avec des informations sur les partis politiques et les systèmes électoraux produits par la plateforme ParleGov, ainsi que par différents indices de mesure de la démocratie conceptualisés par l'Institut suédois Varieties of Democracy. Sur la période donnée, plus de 18 millions de contenus web, liens vers les articles ou blogs ont été partagés par les parlementaires dans leurs tweets. En fait, c'est intéressant. Ce n'est pas les propos, a priori, des élus que cette enquête a ciblé. Ce sont les liens vers des articles, les blogs qu'ils ont mis dans leur message. Vers quel type d'information ils renvoient. Vous voyez, c'est intéressant. Sur la période donnée, plus de 18 millions de contenus web, liens vers des articles, blogs ont été partagés par les parlementaires dans leurs tweets. Des pages que les universitaires ont croisé avec des services de fact-checking qui travaillent sur la crédibilité des sources afin d'attribuer un score de fiabilité pour chaque personnalité politique, chaque formation. Salut Green Bainmol, bonne journée. En France, 1,7 million de messages ont été passés au crible, 4 millions au Royaume-Uni, 2,2 millions aux États-Unis. Salut de Tanuc. Si l'analyse porte sur la totalité des messages publiés par tous ces élus pendant 5 ans, l'étude ne porte pas sur les textes des tweets, uniquement sur les liens qu'ils relaient. Il en résulte que le populisme de droite radicale est le principal facteur de diffusion de la désinformation. Je répète cette phrase. Il en résulte que le populisme de droite radicale est le principal facteur de diffusion de la désinformation. Résume l'équipe de scientifiques qui précise que les partis de gauche dans leur ensemble et dans une moindre mesure les centristes ont moins recours à cette pratique. Ainsi, les partis conservateurs et d'extrême droite présente les niveaux de fiabilité les plus bas. A l'inverse, toutes les tendances de gauche, qu'elles soient radicales, écologistes ou social-démocrates, affichent quant à elles des résultats meilleurs et similaires. Pour le dire autrement, plus un parti se situe à droite de l'échiquier politique, plus ses membres diffusent des fake news, selon ces études publiées, si vous voulez aller la lire, dans The International Journal of Press Politics. Concernant les thématiques labourées par les partis, l'extrême gauche adopterait un usage plus modéré de la désinformation, en concentrant ses attaques sur les griefs économiques et sociaux, tandis que les partis xénophobes capitalisent davantage sur les obsessions culturelles, les peurs sécuritaires, l'opposition aux normes démocratiques. Des sujets plus susceptibles de générer du sensationnalisme, de capter l'attention du public, et qui constituent in fine le terreau fertile de manipulation de l'information sur fond de ressentiment. Les auteurs de l'étude regrettent enfin de ne pas pouvoir mettre à jour leurs recherches. Ils peuvent plus bosser. Elon Musk, qui ne cache pas son penchant pour les droites radicales européennes, notamment l'AFD en Allemagne, qui est un mouvement d'extrême droite, a coupé l'accès aux données de son réseau social. On peut plus, les scientifiques ne peuvent plus étudier comme ils le voulaient, comme ils le faisaient avant. La plateforme est devenue depuis un amplificateur massif de fausses informations et autres discours de haine, ce qu'on vient de voir dans l'affaire de la petite Louise. Ça, c'est moi qui le rajoute. À vous. Merci, Payou. Est-ce que je répète une bêtise, me dit Bouillotte de Slip ? Est-ce que CNews n'a pas déblatoré toute une soirée à partir de cette fake news sur l'affaire Louise ? Je ne sais pas, je ne regarde pas CNews. Si elle était spectateur de CNews, ici, est-ce que CNews a consacré une partie de son antenne aux origines étrangères de la personne qui était soupçonnée dans l'affaire Louise pendant un moment ou pas ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Ouais, c'est Libé, page 22. Mes théories. On me dit que CNews a beaucoup parlé du rôle des jeux vidéo. Je sais pas, je regarde pas CNews. Et CNews a aussi parlé de l'origine du suspect, me dit-on. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer cette information. Je ne regarde pas CNews. Du coup, on voit quand Samuel OJT pourra avoir été traqué, un mate nul à Valorant. Bientôt, je pense. Je pense que les... Vous savez, moi, je viens de cet univers du journalisme, des médias traditionnels. Je découvre celui-ci depuis quelques années. Et en fait, je suis en train de comprendre quelque chose à la lumière de plein de choses. Je suis assez lent dans mon analyse. Je ne suis pas très rapide, moi, du cerveau. Mais je pensais que la plupart des médias traditionnels avaient... était passé à autre chose et avait et voyait la création de contenu sur YouTube, sur Twitch et ailleurs comme une activité intéressante, saine, qui pouvait mettre en avant, valoriser. Et à la lumière de ce que j'ai constaté ces dernières semaines, ces derniers mois, je me trompe peut-être et j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que de la part de ces acteurs traditionnels des médias, pas tous, mais certains encore, il y a consciemment ou inconsciemment encore du mépris. J'en ai beaucoup parlé avec des acteurs de ces deux univers récemment. Voilà. Alors, on se moque. Alors, il y a eu la phase de moquerie. Ardisson qui reçoit Squeezie. Voilà. Natou aussi, je ne sais plus dans quelle émission à une époque. Voilà. Il y a eu la phase de moquerie. Ces gamins qui jouent dans leur chambre aux jeux vidéo, là, quel débile et quel débile! Les gens qui les regardent. Donc il y a eu cette phase-là dont tout le monde se souvient. Et puis alors, cette phase de moquerie a disparu et je pensais qu'on était passé à autre chose et je crois que cette autre chose, c'est consciemment ou inconsciemment encore du mépris. C'est-à-dire, ok, d'accord, ouais, c'est vrai qu'ils font des vues, ok, c'est vrai qu'ils sont regardés par un public qui ne nous regarde plus, les 18-30 ans, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs marrants, ils sont rigolos. Mais je pense que consciemment ou inconsciemment, il y a encore beaucoup de mépris. Voilà. Dans la manière dont le phénomène de la création de contenu sur Internet est vu par beaucoup de médias traditionnels, consciemment ou inconsciemment, ce qui expliquerait par exemple que certains de ces médias traditionnels, je caricature pas, je pense que tout le monde n'est pas comme ça, préfèrent s'intéresser à ce qui ne va pas chez les créateurs de contenu, les polémiques, les dérapages, les échecs, les erreurs, ce qui ne va pas, hein, plutôt que les réussites. Je suis surpris, par exemple, du peu nombre d'articles qu'il y a eu sur le stream For Humanity d'Amine. Voilà. En revanche, je suis vous avez régulièrement dans cette même presse des articles sur les polémiques qui entourent ces événements, quoi. Et là, je suis en train de me demander finalement si la publicité donnée à ces polémiques ne vient pas d'une volonté consciente ou inconsciente de dénigrer la création de contenu en disant « Ouais, on se moque plus d'eux, mais quand même, ils sont problématiques. » Est-ce que ces médias traditionnels se regardent le nombril ? Est-ce que ces médias traditionnels s'interrogent suffisamment sur leurs pratiques, sur leurs biais, sur leurs mauvais comportements ? Est-ce qu'ils écrivent dessus ? Est-ce qu'ils en parlent beaucoup ? Je ne sais pas. Alors je m'interroge, hein. Je n'affirme rien, mais je me pose des questions. À la lumière de ce que j'ai vu ces derniers mois. Mais peut-être que je me trompe. Je poursuis cette réflexion. Je n'affirme rien, je réfléchis à tout ça. Et tant pis pour eux, parce que je pense qu'ils passent à côté de quelque chose. Mais est-ce que tu l'as vécu ? Vous êtes plusieurs à me demander si moi je sens ce mépris. Non, moi je le sens pas. Parce que je crois que ce sont des choses qui ne se disent pas. C'est-à-dire que quand un journaliste écrit ou enquête sur les créateurs de contenu ou sur YouTube et Twitch, il ne vous dit pas, pour avoir votre interview, pour vous faire parler, il ne vous dit pas j'ai une piètre idée, image de ce que vous faites ou de ce que font ce que vous faites vous et vos collègues. Il vous dit pas ce mépris qu'il ressent consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, qui vient de la haute idée qu'il a de son propre travail et du travail des journalistes. Il ne vous le dit pas, il vous l'affirme pas, parce que s'il en avait conscience, il saurait que c'est pas très très malin de vous dire ça, sinon vous lui parlez pas, quoi. Donc je ne le ressens pas, il n'est pas exprimé, mais je ne sais pas quel regard porte réellement. Là, j'étais il y a quelques jours à une réunion où j'ai beaucoup de mes collègues présentateurs télé avec qui j'ai beaucoup travaillé, et j'avoue que je me pose la question, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils trouvent ça vraiment intéressant ? Est-ce qu'ils trouvent ça vraiment pertinent ? Je parle de la création de contenu sur Internet. Ou est-ce qu'ils se disent ça marche, mais c'est un peu naze. Ça marche, mais ça ne devrait pas marcher. Ça marche, mais c'est nous qui devraient être regardés, entendus et lus, et pas eux. Voilà. Là, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec un YouTuber qui a travaillé dans les médias traditionnels avant, et lui, il parle de mépris. Lui, il dit que quand il parle à des journalistes, alors que lui-même a été journaliste, il sent du mépris. C'est pour ça que je parle de ce mot mépris. Moi, je le sens pas, parce qu'on ne me le dit pas à moi, d'autant que j'ai encore un pied dans les deux mondes. Mais lui, il le dit. Voilà. Donc moi, je ne le sens pas, mais certains qui connaissent les deux mondes le ressentent. Donc il y a un truc là. Il y a un truc. Après, il ne faut pas généraliser. Je ne parle pas de tous les journalistes et je ne parle pas de tous les médias. Hein, mais il y a un truc. Voilà. Pardon pour la parenthèse que je referme aussi. On enchaîne. Merci Tama Up pour le soutien. Merci Narcotte pour le quatrième mois. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Tout ça, on n'a parlé qu'une actu. On n'a parlé que de l'affaire Louise pour l'instant. Et puis de la diffusion des fake news. Ce qui est un sujet essentiel dans une démocratie. On va parler maintenant du jeu vidéo, mais il y a une grève. En France, dans le secteur du jeu vidéo. En tout cas, il y a un appel à manifester. Je n'étais absolument pas au courant. On va dans Libé, page 10. On reste avec Libé un instant. Tchouk, tchouk. J'étais au courant ou pas ? Attends, je vais mettre un coup de chauffage, j'ai froid. Grève dans le jeu vidéo, le secteur au bord du game over. À l'appel de la principale organisation du milieu, donc je pense qu'on parle d'un syndicat, une mobilisation générale inédite est prévue aujourd'hui pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et des licenciements. Les salariés ont redécouvert le syndicalisme et entendent acter un nouveau rapport de force face à des dirigeants discrédités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Erwan Cario, je connais ce journaliste, et Marius Chapuis, je me fais un coup de chauffage et puis je vous lis tout ça, ok ? Alors, c'est quoi cette histoire de manifestation et de grève ? Le grand geste pionnier de ce début d'année dans le secteur du jeu vidéo, on ne doit pas à l'IA, mais à une vieille chose du vieux monde, un syndicat. Le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, le STJV, qui enjoint les 10 000 à 14 000 employés français du secteur du jeu vidéo à prendre part à un mouvement de grève générale ce jeudi. Une première pour cette industrie où, il y a 10 ans encore, le concept de syndicat semblait saugrenu. Voilà. Après, c'est un appel à la grève, et il n'est pas forcément suivi par les salariés, c'est eux qui décident. L'appel lancé au terme de la première conférence de presse du STJV le 16 janvier ne tombe pas du ciel. Depuis un an, les fleurons français du jeu vidéo sont sur les dents. En septembre, les salariés des studios parisiens Spiders et Kiloton, filiale du groupe Nacon, on dit Nacon, c'est ça ? Débraillent en simultané pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Mi-octobre, les syndicats du géant Ubisoft, premier employeur français du secteur et de loin, faisaient front commun pour organiser 3 jours de grève. Au même moment, les 250 salariés de Dontnod, qui s'inquiétaient depuis des mois des flottements dans la gestion de l'entreprise, découvraient la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi touchant 69 postes. On dit Nacon ? Merci beaucoup. Le 29 novembre, les salariés se mettaient en grève avant de remettre le couvert mi-janvier, cette fois par le biais d'un mouvement reconductible qui dure une semaine. Merci Clémaquine. Plus largement, la colère qui se cristallise aujourd'hui autour de cet appel à la grève générale s'inscrit dans un contexte d'effondrement social mondialisé. Hein. Il y a eu un boom pendant la crise sanitaire et après, c'est un peu plus compliqué. De 2011 à 2021, les dépenses dans les jeux vidéo ont été augmentées 2 fois plus vite qu'au cours des 20 années précédentes. Le boom dont je vous parlais, qui n'est pas que lié à la crise sanitaire d'ailleurs, passant de 75 milliards de dollars par an en 2010 à 175 milliards en 2020. Un âge d'or donc, qui a culminé avec une nouvelle explosion du temps de jeu, des ventes et des investissements durant le Covid. Voilà. Merci le jeu de la vie pour le 9e mois. Merci Siog pour le soutien. Vous êtes formidable. Bref, euphorie avant la fuite brutale des capitaux. De 14 milliards de dollars investis en 2021 à 2,7 milliards seulement en 2023. Vous avez vu la différence d'investissement ? Divisé par 7 presque. Depuis, le secteur connaît saignée sur saignée, 8 500 licenciements dans le monde en 2022, 10 500 en 2023, 14 600 en 2024. Le retrait rapide des fonds d'investissement se traduit par quantité de fermetures de studios, grands et petits, réduisant d'autant les opportunités d'emploi. Dans une industrie où les carrières sont rarement longues, cette hémorragie ne provoque pas uniquement du chômage, mais des fins de carrière, des réorientations. Une perte de savoir-faire, doublée d'un assèchement créatif, d'autant plus visible que les projets qui trouvent encore des fonds sont de moins en moins audacieux. Au point de conduire parfois à des catastrophes industrielles, comme Concorde, jeu service de Sony, si peu attractif qu'il a fermé ses serveurs 15 jours après son lancement, engloutissant 200 millions de dollars et les 150 salariés du studio. Ce à quoi s'ajoute au moins en France la question des formations privées qui continuent de déverser sur un marché de l'emploi sursaturé quantité de juniors destinés à travailler dans des conditions précaires, à être les premiers frappés en cas de serrage de vis. J'assèque, merci. Je savais pas qu'il y avait trop de gens qui sortaient des écoles du jeu vidéo pour le marché en France actuellement. À ce mouvement d'effondrement se superpose une dynamique inverse d'ascension du syndicalisme, redécouvert par les travailleurs du jeu vidéo depuis 8 ans. En France, le STJV voit le jour en 2017 en réaction aux ordonnances travail à l'époque. Quelques mois plus tard, au printemps 2018, se crée Game Workers Unit, première centrale internationale avec des antennes en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada. Ces nouvelles entités ont en commun de ne dépendre d'aucun syndicat traditionnel et de s'organiser de façon horizontale, quitte à ne pas avoir de porte-voix unique. Beaucoup en rêvent, ce fracas sur la réalité du marché, me dit Chazora, ou accepte des conditions de travail inacceptables. Cet élan se trouve renforcé par la libération de la parole des salariés avec l'éclosion du mouvement hashtag MeToo dans le jeu vidéo. Il n'est pas totalement anodin que les syndicats les plus bruyants et les plus structurés se trouvent dans deux des plus gros employeurs du jeu vidéo mis en cause dans les affaires de harcèlement, Activision Blizzard et Ubisoft. Il y a Energy qui me dit que ce n'est pas que actuellement ça, mais il y a toujours eu techniquement trop de gens formés, sauf côté informatique, informatique et code, c'est ça ? Car le jeu vidéo, c'est hype. Merci Frioram pour ton message. C'est gentil. Merci Frioram. Alors attention, parfois je dis des gros mots, hein. Parce que c'est un enseignant qui nous rejoint et qui dit qu'il voudrait montrer ma chaîne à ses élèves. Attention, je dis des gros mots, hein. Vous verrez qu'un jour, ce sera dénoncé par la presse, hein, le fait que je parle mal, hein. Donc, je vous mets en garde, hein. La liberté sémantique sur cette chaîne peut choquer, quoi. Les esprits les plus sensibles, quoi. Il faut un public à... Oh, c'est mignon. Friora me répond, ce sont des ados, ils auront l'habitude. Pas tant que ça, Samuel. Ah bah si, Desert Eagle. Bah si, ça a été dénoncé par la presse quand même. Ouais. Ah si, c'est un vrai sujet, c'est un sujet important. Cette implantation et cette légitimation des forces syndicales se traduisent en France par leur entrée dans ces instances représentatives des salariés et aux États-Unis par le soutien de syndicats établis. Merci Frandet, tu régales. 15 mois, merci à toi. Le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, rejoint notamment par Solidaire Informatique Ubisoft, a clairement la liste de ses doléances. Que demandent les syndicats ? La priorité concerne le maintien des emplois. Si Dontnod et Ubisoft, qui a encore supprimé 185 postes et fermé un studio anglais le mois dernier, sont les premiers visés, c'est l'hémorragie du secteur tout entier qui est dénoncée. Le syndicat appelle les patrons à cesser de traiter leurs salariés comme l'unique variable d'ajustement économique. Cela va de pair avec la nécessité d'un effort de transparence au sein des entreprises afin de permettre aux employés de se projeter. On se souvient que quelques mois avant l'annonce du PSE chez Dontnod, le directeur des ressources humaines assurait aux représentants des salariés que la mauvaise passe de l'entreprise n'aurait pas de conséquences sur l'emploi. Chez Ubisoft, sérieusement chahuté en bourse, le manque de transparence de la direction a encouragé le CSE à émettre un droit d'alerte économique, procédure encadrée par la loi permettant de forcer la main à l'employeur à partager ses informations. Ambiance. Merci FRJ. L'article est pas mal, hein ? À ces préoccupations sur l'emploi, s'en ajoutent d'autres plus traditionnelles au secteur. La prise en compte de la santé au travail, de la vie
personnel, la lutte contre le crunch, ce surtravail qui peut s'étaler sur de longues périodes et avoir des conséquences dévastatrices pour la santé, fait partie des fondements, des fondamentaux de l'action syndicale dans le jeu vidéo, en entreprise comme dans les écoles. Je ne vous lis pas tout l'article, mais il est plutôt bien écrit. Cet appel à la grève résonne donc comme un coup de poing sur la table, une manière d'acter un nouveau rapport de force qui ferait des représentants des salariés des interlocuteurs aussi légitimes que leurs patrons aux yeux des pouvoirs publics. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le crunch, c'est pas du chocolat ? Si. Mais les plus jeunes ne connaissent pas le crunch. Mais c'est autre chose. C'est un autre crunch. C'est ça le crunch.
Cette jeune fille ne connaît pas encore le pouvoir de crunch nouvelle génération. Plus croustillant. Et plus explosif que jamais.
Eh, hey, dis donc, tu sais que j'ai vu Josie avec Marco.
Oh, pauvre Sophie, trop dur pour elle.
Tu ne ferais jamais ça, toi, hein?
Crunch, la nouvelle génération croustille à tout casser.
Eh oui, Crunch, et vous l'avez reconnu, c'est Emma Decaune, hein, qui était dans cette pub toute jeune. Emma Decaune, exactement. Je pensais que vous n'alliez pas reconnaître, mais vous aviez la ref. Hop, combien de sommes, Papy Sam? 3200 abonnés. Merci, vous régalez. Ah oui, tout était toute jeune, oui. Le crunch, c'était bon, c'est bon le crunch en vrai. Ah, il y a aussi le crunch France-Angleterre, ouais. Biber, vous êtes en train de me dire que le brunch, c'est pour les vieux, je vais péter un câble. Alors si tu écris brunch à la place de crunch, effectivement, je pense que tu peux te ranger dans le camp des personnes âgées, hein. Effectivement. Désolé. Ouais, ça, tu tends le martinet pour te faire punir. Ah, ou le dyslexique. Alors là, pardon, excusez-moi. Mon épouse est dyslexique, donc c'est un sujet que je connais un petit peu. Et vous, si c'est la dyslexie, j'enlève ma blague sur les personnes âgées. C'est vrai. Le dérapage. Une du monde. Nouveau dérapage de Samuel Etienne, deux points, il s'en prend au dyslexique. Pardon, excusez-moi. Donc voilà pour cette grève dans le jeu vidéo aujourd'hui. Je vais baisser le chauffage, je l'ai allumé, mais voilà. Encore. J'arrive. N'hésitez pas à signaler aux médias traditionnels ce nouveau dérapage. Merci beaucoup, le jeu de la vie, pour l'abonnement offert @neo. Ça, c'est parce que les jeux vidéo m'ont rendu violent. Exactement. Emma, bien vu. Ah, qu'il est bon de rire avec vous. Ah, oh, Frandroid. Merci pour ce raid, c'est adorable. Allons jeter un œil à la raid, à la chaîne qui vient de nous raid à l'instant. Voilà, excellente chaîne que je vous invite à follow. Elle est ici. Frandroid est un média dédié à quoi ? Aux nouvelles technologies. Où les passionnés parlent aussi bien de smartphones que d'informatique, de jeux vidéo, d'audio ou de véhicules électriques. Voilà. De quoi vous avez parlé ce matin d'ailleurs ? Voilà. Merci en tout cas pour le raid. N'hésitez pas à follow. Je follow moi au moins, je follow.
heureusement. Merci Bimbojet pour le soutien. Attendez, je vais même vous mettre la chaîne en épinglé. Hop, je vous le mets en haut. Vous avez parlé de quoi ? De montres connectées beaucoup ce matin ? D'accord. Ok, trop bien. Alors après, la crainte dans le secteur du jeu vidéo, dont parle aussi l'humanité, ça vous intéresse ce matin d'ailleurs. Hier, on avait Delphine Bateau en plateau pour parler des marchages téléphoniques. C'est trop cool en vrai. Il y a Jonathan qui nous dit, pensez à aller acheter le bundle de grève pour supporter la grève générale. Bah, attends, mais on peut acheter un bundle de grève ? Comment ça marche ? Comment ça marche, Jonathan ? C'est comme sur Valo, on peut acheter un bundle de grève ? Non, là, je ne connais rien. Ouais, on arrête tout. Comment ça marche ? Je l'ai posté par MP ? Attends. Ah oui ? Bon, merci Linénu. Attends, je vous le montre. Bonjour Samuel, je partage le bundle égale pack de jeux indé à prix libre en soutien à cette grève au secteur. Attendez, on va voir ça tout de suite, ça a l'air vachement intéressant. Merci, vous êtes géniaux. Je vous montre. Grève bundle GG25. C'est un bundle. C'est quoi un bundle, bordel ? Bundle, pour moi, c'était des skins. C'est autre chose, bundle, en fait. Au bénéfice de la caisse de grève... Pardon. Ah, c'est un pack. C'est un pack. Ah, donc ça peut être un pack de skins. Ah, bundle, c'est un pack. Ok. Bundle au bénéfice de la caisse de grève du syndicat des travailleurs travailleuses du jeu vidéo pour aider à compenser les pertes de revenus liées à cette grève générale du jeu vidéo. C'est trop bien. Vous trouverez des jeux physiques ou virtuels, mais aussi des zines, des textes. L'idée était de proposer des créations sur le thème de la grève, proposer des jeux déjà existants pour financer la lutte. C'est trop bien. Tu donnes ce que tu veux. Et là, et donc pour... C'est ça ? Je vous mets le lien dans le chat, ok ? Ah, je peux scroller à droite, il y en a d'autres. Je vous mets déjà le lien. Voilà. Je vous l'ai mis en haut, ok ? Non, pas encore. Ah, le chat va trop vite. Voilà. Je vous ai mis le lien en haut. Effectivement, on peut scroller là ? Non, à droite, non. En bas, peut-être. Ah ah ! Ouais, pour toutes les bourses. Les bourses, l'argent. Hein. Je vous connais. Voilà. Selon, tu vois. Coldridge dans la liste banger. C'est quoi Coldridge ? C'est quoi ça ? Dash Pong, c'est pour moi ça, Dash Pong. Coldridge, c'est bien ? Trop bien. Buisson banger ? Vous êtes plusieurs à le dire. T'as encore des jeux qu'il faut que je découvre ? Alors, je vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver. Buisson, c'est pour toi, c'est un jeu à prout ? Quel enfer ! Imaginez le regard des médias traditionnels sur une chaîne où un jour un invité a fait un prout, un humoriste en plus, Mister V. Non, 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 c'est la décadence, c'est la chienlit, c'est la fin de la culture. Non, il faut arrêter ça, il faut stop ! Arrêtons ça. Moi, je vous demande de vous arrêter. Hein ? Incroyable, ça, tous ces gens qui font n'importe quoi. Là. Mister V, c'est Mister V. C'est la décadence. Voilà. Pardon. Donc, on en était où, là ? Après les jeux vidéo. C'est vrai, je me rappelle de ça. Macœur. Heureusement, les journalistes n'avaient pas cette info-là, ouais. Samuel termine It Takes Two avec Tatiana, c'était excellent, c'est vrai. Alors, après les jeux vidéo, je vais vous parler de... Suspense intolérable, il faut que je retrouve ma... Ah ouais, le Figaro. Alors le Figaro, souvent je vous dis, oui, Figaro, journal de droite conservateur, ok, hein, libéral sur l'économie, mais ça n'est pas, ça n'est pas un bloc, c'est pas un bloc. Là, dans la rédaction du Figaro, vous avez des gens de différentes sensibilités. Mais parfois, eh ben, vous avez une ligne éditoriale qui va plus s'affirmer certains jours, et là vous avez un Figaro ce matin qui est assez à droite. Voilà. C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est un peu plus subtil. Voilà. Et je vais vous en parler, c'est le regard du Figaro sur l'écologie politique. France, Europe, États-Unis, l'écologie politique est en échec, hein, nous dit le Figaro. Du DPE dans les logements aux ZFE dans les transports, les normes édictées au nom de l'écologie virent au casse-tête. Partout, les législations doivent être revues à la baisse. Parce qu'elle charrie tout un lot de contraintes et de normes qui complexifient la vie quotidienne des citoyens comme la gestion des élus de terrain, l'écologie politique est aujourd'hui en recul. En Europe, les ambitions du Green Deal sont lentement mais sûrement détricotées, tandis qu'aux États-Unis, Trump veut sortir de l'accord de Paris, forer à tout va, drill, baby drill, c'est ça ? Et relancer la paille en plastique. En France, François Bayrou, dont on va parler tout à l'heure dans une autre affaire, tente de maintenir un savant équilibre entre nécessaire protection de l'environnement et légitime attente de simplification de la part des Français, agriculteurs et industriels en tête. Les écologistes, eux, sous l'égide de Marine Tondelier, gauchisent leur discours pour pallier le recul dans l'opinion. Bon. Globalement, le Figaro, là, fait un constat qui est le recul de l'écologie politique, voilà, et de la hausse des mécontentements contre les normes. Ça, alors ça, c'est, pour le coup, c'est une info. C'est vrai que, c'est vrai que ça existe, ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'édito que j'ai trouvé, mais je peux me tromper, un peu surréaliste, un édito qui, à mon avis, mélange tout. Mais je peux me tromper. On va le lire, et vous allez me dire ce que vous en pensez. L'écologisme selon Kafka. Vincent Trémollet de Villers. L'écologisme, donc c'est en une du Figaro, est une idéologie cohérente. Elle s'applique à elle-même sa première obsession, la décroissance. Ça, c'est de la moquerie. Je viens de comprendre, je l'ai lu trois fois, je l'ai dit tout ce matin, je viens de comprendre la blague. L'écologie politique, elle est cohérente, elle prône la décroissance, elle se l'applique à elle-même. C'est-à-dire qu'elle est elle-même en décroissance. Ah, je viens de comprendre la vanne. Okay. En vrai, elle est bonne, mais je n'avais pas compris. Pour prospérer, elle s'est appuyée sur une réalité indiscutable, quand même, le dérèglement climatique et la part des sociétés humaines dans le phénomène. Donc là, quand même, donc le Figaro ne nie pas le réchauffement climatique et la responsabilité de l'activité humaine dedans. Mais, et c'est dans le mais que c'est intéressant, mais, en moins de temps qu'il n'en faut pour un tweet, l'écologie politique, hein, ce que le Figaro appelle l'écologisme, a délaissé la protection de l'environnement au profit d'un festival sociétal, en écriture inclusive. C'est l'écologie politique qui a inventé l'écriture inclusive ? Quel est le rapport ? Ou la transidentité ? Quoi ? Attends. Les trans, tout ça, c'est l'écologie ? Hein ? Attends. Le racialisme ? La GPA ? Attends, la GPA, c'est la gestation pour autrui, ça ? Ça, c'est l'écologie politique, ça ? La dépénalisation du cannabis, aussi, c'est aussi eux ? L'ouverture totale des frontières allait, selon la formule, sauver la planète. Attendez, mais ça m'a échappé. Il y a des écolos qui ont dit que l'écriture inclusive allait sauver la planète ? Il y a des écolos qui ont dit que la GPA, la transidentité, la dépénalisation du cannabis allait sauver la planète. Il y a des gens qui ont écrit ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que dit le Figaro. C'est incroyable. Je n'invente aucun mot, hein, je vous lis mot pour mot l'édito. Quoi. Je vous avoue, je l'ai relu plusieurs fois, je me disais, je n'ai pas dû comprendre. Politiquement, les coupables étaient identifiés. Le capitalisme, l'islamophobie, l'État d'Israël. Greta Thunberg est passée sans transition de Gaïa à Gaza. Ouf, la vache. Symbole planétaire de la confusion mentale du peuple adolescent. Les jeunes, vous vous souciez de la planète, en fait, parce que vous êtes en pleine confusion mentale. C'est pas chaque paragraphe qui est fou. C'est pas chaque ligne, c'est chaque mot. Chaque mot. Ça mélange tout. Nul besoin de Trump pour que les Français se détournent de ses obsessions archi-minoritaires, des caprices urbains des amis de Sandrine Rousseau. Ça s'appelle un troll. Ça s'appelle un troll quand c'est un tweet perdu sur Internet. Quand c'est la une du Figaro, c'est plus qu'un troll. En France, c'était l'écolo-wokisme à l'échelle européenne, une sorte de climax bureaucratique, la vie quotidienne normée à chaque instant pour atteindre la terre promise, la neutralité climatique en 2050. Un fascinant mélange de doigts mouillés, de pinaillage, de naïveté et de cynisme. Franz Timmermans, sous la houlette d'Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, a forgé le Green Deal. Hein, sans aucune. Alors, voilà, le Green Deal, c'est aux doigts mouillés. Hein. C'est pas du tout parce que les scientifiques de la COP nous disent depuis des années qu'on va dans le mur. Non, c'est un peu, ils ont un peu improvisé, quoi. Sans aucune certitude des effets écologiques de cette planification, on a abandonné le moteur thermique. Bah oui, le moteur thermique qui ne pollue pas. Le moteur thermique dans nos villes qui ne pollue pas et qui ne rend pas l'air irrespirable et ne développe pas toutes les maladies respiratoires et diminue l'espérance de vie des gens, notamment dans les grandes villes. C'est vrai, il a raison, Vincent Trémolet de Villers. Hein. C'est pourquoi on abandonne le moteur thermique. On a donc abandonné le moteur thermique et offert à la Chine la mort de notre industrie automobile. Rendu impossible la location des centaines de milliers de logements. Ah oui, c'est parce qu'à cause du du DP, tout ça. Mis en accusation les travailleurs de la terre, comprenez les agriculteurs comme les premiers pollueurs. Rejeter les gueux du peuple de la bagnole hors des métropoles. Envisager une sorte de taxe carbone personnalisée pour les citoyens trop dépensiers. Réglementer, transposer, surveiller, punir. Pendant ce temps, on fermait les centrales nucléaires, on rouvrait les centrales à charbon. Alors, pas en France, mais... Voilà. Fort heureusement, alors, ouf. Alors, si vous partagez la pensée de Vincent Trémolet de Villers, vous pouvez respirer. Enfin, pas trop fort, parce que l'air est pollué, mais... Ouf. Alors, ne respirez pas, mais expirez. Expirez et dites « ouf ». C'est une expiration. Parce que fort heureusement... Le réel, petit à petit, reprend ses droits. Le fameux réel. L'Europe déconstruit la cathédrale technocratique qu'elle avait échafaudée. Les acronymes hostiles des PE et des FE découragent même les maires de gauche. Le nucléaire décarboné retrouve sa place décisive. Mais quel temps, quel argent, quelle énergie perdue. Kafka lui-même n'en revient toujours pas. J'ai été surpris par cet édito. J'étais surpris. J'ai eu l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'il mélange tout. C'est plus de l'opinion du journalisme. Oui, c'est ce qu'on appelle un édito. C'est un édito. C'est marqué là, en gros. Édito, ça veut dire, c'est un article où le journaliste donne son avis. Édito, c'est un petit feu rouge qui clignote, ou orange, et qui dit, attention, ce n'est qu'une opinion, c'est un avis. Là, ça nous aide à relativiser le contenu. Mais c'est écrit par un journaliste. Et c'est en une. Ouais. C'est pas toujours comme ça. Le Figaro, qui est un, il faut comprendre une rédaction comme un ensemble d'hommes et de femmes qui écrivent un journal, mais qui ne sont pas tous d'accord entre eux, y compris au Figaro, y compris à Libéral. Vous comprenez, si vous pouviez voir comment fonctionne un journal de l'intérieur, on s'engueule beaucoup entre nous quand même. Donc tous les journalistes du Figaro ne sont pas d'accord avec ce qui vient d'être écrit là. Mais, quelque part, c'est validé pour que ce soit en une quand même. Voilà. Voilà. Donc je voulais vous lire cet article parce qu'il m'a un peu surpris. Je trouvais qu'il mélangeait un petit peu les choses. Voilà. Après l'écologie politique, donc en échec, alors je continue un petit peu avec le Figaro, parce que je vous dis, parfois le Figaro n'est pas si, on va dire, conservateur et de droite que certains le pensent, mais ce matin, si. Ce matin, si. Là, j'ai été assez étonné par cet article, page 15, écrit par Eugénie Bastier, qui est une journaliste, qui est une éditorialiste, hein, qui est une essayiste aussi. voilà, et qui nous pose cette question toute simple. Voilà. Qu'est-ce que être de droite ? C'est une question très simple. Merci pour les bits, Jonath, et merci pour le message pour le bundle de greffe qui est épinglé là-haut. Voilà. Dans un essai très personnel, Eugénie Bassier donc écrit sur un livre qui a été ouvert par écrit par une journaliste qui s'appelle Laetitia Strauss-Bonnard. Donc elle écrit sur ce livre et développe donc Laetitia Strauss-Bonnard sa vision de du libéral conservatisme, sa vision d'être de droite. Cette personne donc Laetitia Strauss-Bonnard dit être de droite, c'est préférer la gratitude au ressentiment, et elle explique avec brio. Donc Eugénie Bastier aime bien ce bouquin. Voilà. Et lisons un petit peu. Vous allez voir, c'est assez proche de l'édito qu'on a lu. Qui n'a jamais entendu cette phrase prononcée d'un ton « Désolé, j'ai le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite ». Il arrive souvent, en effet, qu'on devienne de droite en découvrant son avis d'imposition. Pardon. Pour suivre son intérêt économique plutôt que par conviction idéologique. Ce n'est pas par intérêt, par convenance ou par héritage que Laetitia Strauss-Bonnard a choisi cette famille politique. Bon, bref. Eugénie Bastier nous dit que l'autrice est de droite. Bon, très bien. Donc elle nous explique son parcours, comment elle est devenue de droite, sa formation intellectuelle, blablabla, blablabla. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Eugénie Bastier regrette que, c'est un truc intéressant, que Laetitia Strauss-Bonnard s'en prenne à Zemmour. Elle dit, mais c'est quoi ce livre qui dit que la droite c'est bien et qui s'en prend à Éric Zemmour ? J'ai dû relire ça parce que je n'étais pas sûr d'avoir compris. Un réquisitoire étonnant dans un livre consacré à la droite à l'égard de l'homme politique Éric Zemmour. J'ai relu plusieurs fois ce passage parce que je n'étais pas sûr d'avoir compris. Mais en fait, si. Voilà. Strauss-Bonnard classe Zemmour parmi les réactionnaires. Et Eugénie Bastier est très choquée par ça. Elle le juge avec une sévérité qu'on peut juger exagérée. Elle voit en lui un prophète du passé. Donc c'est la dame qui a écrit le livre qui dit ça. Un pur négatif de la doxa progressiste. Un woke de droite. Prêt à sacrifier la vérité historique. C'est vrai que Zemmour a pris quelques libertés avec l'histoire. Et les libertés fondamentales sur l'autel du roman national et de la raison d'État. Donc Eugénie Bastier n'est pas très content de ce passage. Et Eugénie Bastier ajoute, oui, bien sûr, on peut critiquer le maximalisme d'Éric Zemmour, mettre en garde contre la tentation révolutionnaire d'une droite qui ne se vaut plus à préserver ou réformer les institutions, mais à les détruire car elles sont jugées trop corrompues, et s'inquiéter d'un conservatisme qui promet comme Trump un âge d'or, c'est-à-dire une utopie, là où être conservateur, c'est précisément renoncer à l'utopie en politique. Donc on peut reprocher des trucs à Zemmour, mais des petites choses, quoi. Mais attendez, il y a une phrase qui est sympa qui arrive. Mais... Et là, Eugénie Bastier va excuser Zemmour. Reste de falme, on se fend la gueule. Encore faut-il comprendre que les excès de la droite, donc notamment les excès de Zemmour, ne font que répondre aux excès d'une gauche radicale, sectaire et impitoyable. Les excès de Zemmour, c'est la faute de la gauche. C'est pas de sa faute à lui. C'est à cause de la gauche. Et je ne l'avais pas encore compris. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit toutes ces bêtises. Exactement, Manu. Si la gauche n'était pas tellement à gauche, il ne serait pas autant à droite. Exactement. J'ai bien aimé ce passage. Alors, heureusement, l'auteur du livre, donc Laetitia Strauss-Bonnard, se rattrape aux yeux de Eugénie Bastier, puisque plus tard, elle écrit « Heureusement, Laetitia Strauss-Bonnard n'épargne pas non plus la gauche, quand même. Hein. Son hypocrisie, son absence d'efficacité, drapée dans les grands principes vains, elle critique ses penseurs qui se font les rentiers. » Bon, bref, je passe tous les trucs, là, voilà. Et on va aller à la fin, parce qu'il y a un petit bouquet final, c'est comme au 14 juillet, à la fin. Merci Nadu du 05, comment vas-tu ? Oh, 42 mois, c'est une dinguerie. Voilà. Et donc je vais à la fin, parce qu'en fait, globalement, la philosophie du livre lui plaît bien, et Eugénie Bastier dit Il y a 1000 manières de définir la droite. Je vais très bien note. Pour la gauche, être de droite, c'est être vil, être égoïste. Certains vanteront l'ordre, la prudence, la liberté. Laetitia Strauss-Bonnard donne une autre définition de la droite magnifique, dit Eugénie Bastier. Être de droite, c'est tout simplement chercher à remplacer le ressentiment par la gratitude. C'est prôner l'indulgence plutôt que l'intransigeance. Le pardon plutôt que la rancune. C'est se définir plutôt par ses joies que par ses souffrances. Par ses liens plutôt que par ses droits. Quand je récitais des poésies à l'école, je parlais comme ça un petit peu. C'est un imaginaire de la perte plutôt que de la promesse. Après 40 années de gauchisme culturel, car il n'a échappé à personne que nous vivons depuis 40 ans dans le gauchisme culturel, jamais il n'a été aussi nécessaire en France d'emprunter la route de la gratitude plutôt que de la servitude. Voilà. Voilà. Du coup, elle est de gauche, je ne comprends pas. Voilà, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Eugénie Bastier. Je ne regrette pas ce matin cette lecture qui m'a intéressé. Maurice Carême, oh mais mes enfants ils lisent des poèmes de Maurice Carême. Malo il les connaît par cœur. Oh, c'est incroyable. Blacky Nounours, ça m'a tellement ému que je me servirai bien de ce papier pour allumer mon poêle à bois. J'adore. Maurice Carême, c'est trop mignon ça. Non, c'est pas le Gorafi, c'est le Figaro. Voilà. Tous les enfants apprennent Maurice Carême depuis 1880. Je sais pas, mais je connaissais pas. Mais Malo, il a appris par cœur du Maurice Carême. Voilà. Dux Totius, ça faisait longtemps que j'avais pas ri de mon cœur comme ça, merci le Figaro. Eh bien voilà. Bon, après, le Figaro, c'est plein d'autres articles. Ne pensez pas que chaque article du Figaro est inspiré par cette philosophie. C'est un journal que moi, j'aime beaucoup, avec beaucoup d'articles de qualité. Voilà. Sauf qu'un journal, c'est comme nous, c'est inégal. Il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Je ne suis pas fasciné par cet article, mais il y a des articles dans le Figaro, au quotidien, sur plein de sujets qui sont très, très bien faits. Voilà. Mais là, on a une petite pépite. Ça, plus l'édito qu'on a lu en une quand même sur l'écologisme politique qui était assez waouh. Voilà. Mais pas ce matin. Voilà. Voilà. Un peu moins, on va dire. Voilà. Mais j'aime beaucoup le journal. Et c'est vrai en plus. Ok pour le Figaro. Après, on va aller sur. Ah, retour en arrière. Non, mais c'est vrai, Magic Monkey. Non, je blague pas. Je suis pas en mode capa. Hein. Non, c'est plus compliqué que ça. Un journal, c'est pas un truc. c'est pas un bloc. Hein. C'est beaucoup plus divers que ça. Hein. Dans l'Humanité, je tombe sur des articles que je trouve nazes et d'autres bien. Libération, pareil, le Parisien. Parfois, je lis le Parisien et rien qui m'inspire. Le lendemain, je trouve que tout est à lire. Hier, on a lu quasiment tout le monde. La veille, il n'y avait rien. Enfin, voilà, c'est très subjectif. Quoi. Voilà. Maintenant, on va parler d'un truc hyper intéressant. On va revenir en arrière. Hier, il y a un article dans l'Opinion dont je voulais vous parler. Non, dans l'Opinion, pas dans les Échos, Samuel. Et j'ai pas pu vous en parler. Voilà. Encore une tribune. Donc une analyse, puisque en fait c'est là. C'est Denis Oliven qui a il a fait plein de choses, chef d'entreprise, essayiste, un cerveau assez brillant. Et en fait, il parle du travail en France et du fait qu'on rémunère pas assez le travail et qu'on taxe trop le travail. Et vous savez quoi? Alors je peux peut-être me tromper, mais je trouve qu'il dit pas que des conneries. Et je vais vous proposer de lire ça, quoi. Voilà. Je vais juste faire pipi d'abord. Ça n'a aucun lien. C'est juste que j'ai bu beaucoup de thé ce matin. Donc, je prends 30 secondes, je ne vous mets pas de pub, let's go, je vous laisse entre vous, là, entre grandes personnes, et passer le capital. Bon, on va voir ça, Julio, on va voir ça. J'arrive. Alors, est-ce qu'on me dit des choses essentielles sur... C'est quoi Sloobige ? Sloobi 1, Sloobi 2, Sloobi 3. J'ai jamais compris en fait Sloobi, j'ai pas la ref. Vous m'avez peut-être expliqué il y a longtemps, j'ai oublié. C'est quoi Sloobi ? Ça veut dire quoi déjà ? Je vais voir mes mails pour essayer des urgences. Kaamelott, Doudou ? Kaamelott, mais c'est quoi Sloobi 1, Sloobi 2, Sloobi 3 ? Comment ça marche ? Pourquoi ça compte ? J'ai pas la ref. Comment ça fonctionne ? Quelle heure il est ? On est bien longtemps là ? On est bien. C'est un jeu dans Kaamelott qui n'a aucun sens. C'est un jeu de Perceval, c'est un jeu dans Kaamelott. Rêve Jean Massier. Sloobi 1, Sloobi 2, Sloobi 3. C'est ça le gag, que ça fonctionne pas. Quand quelqu'un AFK, Sloobi 1 apparaît et puis après on continue la chaîne. Ok. Ok. Faut regarder le sketch. Ok. Bah let's go. On va faire ça. Attends, je regarde juste si j'ai pas un... Un message important. C'est un événement que je vous prépare là, qui est compliqué à organiser là. Ouais. Waouh. Ouais, ça va. Parfois, il y a des événements qui sont plus compliqués que d'autres à organiser. Donc, je vais aller voir Sloobi. Ça sent l'email qui pue. Ouais, parfois, il y a des gens qui vous travaillent qui sont compliqués, d'autres moins. Bon, là, c'est les gens compliqués. Parfois, tu as envie de ne pas faire le truc, d'ailleurs. Sloobi. Enfin, j'ai pas. Ouais. C'est encore possible d'ailleurs. Alors. Sloobi. Où est-ce que je trouve ? Ah, je l'ai.
Après les DLC, je sais pas ce qu'on va faire.
C'est quoi ça ? Pourquoi il y a ça ?
Une partie de quelque chose.
Vous voulez jouer à Resident Evil 7 ?
C'est qui la dame là ? Elle est pendant Kaamelott ? J'ai pas dû prendre la bonne vidéo là. Ah, c'est une vidéo React. C'est où Sloobi ? Perceval chante Sloobi ? Je l'ai. J'ai. Non, c'est la même chose là. C'est encore là. Bah, putain, c'est... Non, la fille, elle pop en 1 chaque fois. Comment ça se fait ? C'est marrant les algorithmes. Ah, vidéo bloquée en France, il y a un VPN. Ah, ça strike très fort. Ah. D'accord. Ah. Oh, bah mince alors. Ah ouais? Alexandre Astier et MT sont difficiles sur les droits d'auteur? Ah bon? Ah ouais? Ça strike fort? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Il y a un TikTok là. Génial. Mais je connais pas Kaamelott, moi j'ai jamais regardé. Bah je jamais regardé moi. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Mais non, j'ai jamais regardé Kaamelott moi. Je sais que les gens adorent. J'ai jamais regardé de ma vie, moi. Non, jamais. Ah bah non, moi je lis les journaux, je peux pas tout faire. Ah bah je connais pas. Mais le Sloubi, là, c'est incroyable. Oui, je sais que c'est son acier et tout ça, mais je n'ai jamais regardé, quoi. Non, jamais. J'ai jamais regardé un épisode, ever. Mais c'est génial. Ah non, moi, quelqu'un dit que ça a mal vieilli. Moi, le truc que je viens de regarder, c'est, je trouve ça génial. C'était diffusé où, Kaamelott ? Qui diffusait Kaamelott ? M6 ? Ah, mais c'est à la télé ! C'est pour ça. Non, mais moi, je regarde Twitch. Un peu YouTube. Mais non, moi, moi j'ai pris un virage vers les... Vers un peu la nouvelle création, quoi. Ah ouais, mais c'est à la télé. Ah ouais, mais je regarde pas la télé, moi. C'est pour ça. Désolé. Désolé, c'est parce que vous êtes un petit peu vieux. Alors après... Alors après, je vais vous parler de quoi ? Je ne sais pas où j'en suis, là. Il y avait un article dans le Parisien sur le boom des love rooms, des chambres d'hôtel que les couples officiels louent, histoire de pimenter leur quotidien. Je n'étais pas persuadé que c'était vraiment un truc sociétal, massif et tout. Donc voilà. Si ça vous intéresse, c'est page 13, le boom des love rooms. Bon. Non, j'ai plutôt envie de vous parler de quoi ? Ah si, ça c'est... Oui, le truc qu'on avait là. Il me reste du temps ou pas ? Il me reste un peu. Denis Oliven, hyper intéressant. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, ça. Voilà. Merci Shinkin. Merci Stoustou. Let's go. Denis Oliven, il dit dans l'opinion d'hier... Nous rémunérons mal le travail. La frustration salariale est la cause du malheur français. Bam ! C'est pas mal, non ? Alors, il ne le dit pas depuis hier, il le dit depuis 94. En 94, à l'époque, il travaillait pour Pierre Bérégovoy, le Premier ministre, et il publiait une chronique qui s'appelait « La préférence française pour le chômage ». Il expliquait que les charges trop lourdes sur le travail non qualifié alimentaient notre chômage de masse. Voilà. 30 ans plus tard, il écrit un livre qui s'appelle « La France doit travailler plus et les Français doivent être mieux payés ». Voilà. Sa thèse, ce n'est plus le chômage non qualifié que nous nourrissons, c'est le travail tout court que nous décourageons. Pour sortir de cette trappe à déclassement, la France doit produire plus, travailler plus, donc mieux rémunérer le travail. Bon, c'est son avis. Voilà. Et il commente 8 punchlines sorties du bouquin. Voilà. Donc il parle de la il compare avec l'Allemagne. Et il dit notamment, mortel déni, 2 points, 6 Français sur 10 sont écartés de la production de richesses. 3,9 Français sur 10 travaillent effectivement, en gros pour l'économie, contre 5,5 en Allemagne, puisqu'il compare avec l'Allemagne. En proportion, l'équipe de foot de production de richesses allemande aligne 11 joueurs, nous 8. J'écarte les très jeunes et les très vieux, qui ne différencient pas de l'Allemagne. Nous avons un taux de chômage supérieur à l'Allemagne, mais ce n'est pas le plus significatif. Il existe 3 taux d'activité inférieurs de 10 points. Les jeunes en formation, car on a peu de jeunes en alternance par rapport à l'Allemagne. Les personnes au foyer, les femmes principalement, parce que nous avons moins de temps partiel et d'emplois complémentaires. Et les 50-65 ans, pour cause de départ à la retraite précoce, on arrive bientôt l'âge où on va mettre dehors, moi, parce que je commence un petit peu à vieillir. Ça, c'est très français. Vous l'aurez entendu ici, hein, que quand vous me verrez débarquer, c'est parce que voilà, j'atteins l'âge limite. Hein, à partir de 55 ans, ça va devenir compliqué. Autant dire dans pas longtemps. Travailler plus pour gagner moins, voici la martingale maudite du désarroi français, dit-il. Fainéants les Français ? Que nenni ! Je n'y crois pas une seconde, je ne crois pas à la thèse culturaliste de Français qui n'aimeraient pas le travail. On a réduit le temps de travail, c'est une remarquable conquête. Nos arrière-grands-parents consacraient 70% de leur vie au travail. Aujourd'hui, on utilise 60% de notre vie éveillée à autre chose que le travail. Mais dans cet univers général où tout le monde travaille moins, la France travaille moins que tout le monde, avec 664 heures de travail par an par habitant. Quoi ? 660... Ah oui, ah d'accord, et tout, il prend tous les habitants, donc les enfants et tout. Oui, parce que là, je crois 664 heures de travail par an et par habitant, je trouvais ça pas beaucoup. Il prend tous ceux, y compris ceux qui ne travaillent pas. Okay. Ouais, je comprenais pas. Nous sommes le pays développé qui travaille le moins. L'Allemagne, c'est 729. D'où vient alors notre quoi ? Notre réticence, les conditions de travail, ça va pas. Le sens du travail, ça va pas. La responsabilité, mais surtout, nous rémunérons mal le travail. Je suis pas d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais ça, je suis d'accord. La frustration salariale est la cause du malheur français. L'absentéisme, la grève, ils sont liés à notre impossibilité à exprimer notre insatisfaction salariale par le départ de l'entreprise. Pour redonner sa valeur au travail, il faut d'abord réduire la différence entre ce que verse l'employeur et ce que reçoit l'employé. Au risque de choquer, dit-il, je ne pense pas que notre sujet majeur soit le niveau de dépenses publiques. Vous savez, certains disent qu'il faut réduire les dépenses publiques. Nous consacrons 2 points de plus que l'Allemagne à nos retraites, c'est-à-dire l'équivalent du budget annuel des hôpitaux, mais en euros par habitant, nos dépenses publiques sont les mêmes qu'outre-Rhin. Intéressant. Notre sujet majeur, c'est le mode de financement de notre modèle social. Il n'est pas bon, car nous avons assis une trop grande partie de ce financement sur les facteurs de production de richesse, le travail et le capital. Les taux de taxation implicite du travail et du capital publiés par la Commission européenne le montrent. Nous sommes quasiment champions du monde de la taxation du travail et champions de la taxation du capital productif. Or, nous aurions dû, comme les Allemands, essayer d'épargner autant que faire se peut les facteurs de production plutôt que les taxer toujours davantage. Ce qui alimente un cercle vicieux du déclassement, parce que notre niveau de prélèvement est trop élevé, nous dissuadons nos citoyens de travailler davantage et parce que nous ne travaillons pas assez, nous devons taxer plus pour financer notre État-providence. Ok. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Il dit, pardon pour le jargon, mais connaissez-vous le taux marginal de prélèvement effectif ? Selon l'INSEE, c'est la fraction d'une hausse de revenus qui vous échappe, soit parce que votre prélèvement augmente, soit parce que vos prestations diminuent. Pour 60% des salariés en France, ce taux-là, il est de 55%. Lorsque votre employeur met 100 euros pour vous augmenter, vous allez garder 45 euros dans votre poche. Ça, c'est vrai. Sans être un partisan résolu de la courbe de l'affaire, j'estime que si la majorité de ce que vous gagnez ne va pas dans votre poche, hein, quand vous constatez sur votre fiche de paie ce que l'entreprise dépense pour vous payer, ce que vous touchez à la fin du mois, voilà. J'estime que si la majorité de ce que vous gagnez ne va pas dans votre poche, c'est une désincitation à travailler. Avec ce que j'appelle le bouclier travail, si je suis augmenté de 1 euro pour mon travail, il faudrait qu'au moins 55 centimes aillent dans ma poche. Prenez les retraites. Même après la réforme, nous avons l'un des systèmes les plus généreux au monde. Mais comment motiver les Français en disant « Vous allez travailler 2 ans de plus et la majorité de votre revenu ne rentrera pas dans votre poche ?» Maintenant, faisons une expérience psychologique. Si on disait aux Français « Ce sera 2 ans de plus, mais vous allez gagner l'équivalent d'un 13e mois en plus », je pense que le rapport à la réforme des retraites n'aurait pas été le même. Ces 10%, c'est à peu près 90 milliards d'euros. Il faut donc déplacer 90 milliards d'euros de l'imposition des revenus de travail vers d'autres ressources. Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure le capital. Alors manifestement, Denis Oliven, qui est un chef d'entreprise, qui a dirigé de très grandes entreprises, je crois, la Fnac notamment, enfin bref. Manifestement, il ne veut pas qu'on taxe le capital, ce qui fait de lui quelqu'un qui représente la pensée plutôt libérale. Alors où est-ce qu'il va trouver l'argent ? S'il faut enlever de la taxation sur les salaires et qu'il ne faut pas toucher le capital, on touche à quoi ? Alors ça, c'est ses propositions. Où trouver 90 milliards d'euros ? La règle d'or, déplacer les prélèvements des assiettes productives, dans ce que lui appelle le travail et le capital, vers les assiettes improductives. Le capital, c'est l'argent des entreprises, pour faire simple, ALSA, pour faire très simplement. Voilà. D'abord, le foncier bâti et non bâti. 18 000 milliards d'euros de valeur. Hein. Donc il faut taxer le foncier. Un demi-point de taxation en plus, c'est 90 milliards d'euros. Donc taxer plus le foncier, l'habitat. La propriété immobilière. Ensuite, les successions. L'imposition moyenne des salaires tourne autour de 45%. Je pense qu'il compte les cotisations sociales, tout ça. Celui des successions ne dépasse pas 8%. Enfin, donc lui, il veut qu'on taxe l'immobilier, il veut qu'on taxe les successions. Enfin, il y a les retraites. La taxation moyenne s'établit à 14%, et il veut qu'on taxe plus les retraités, enfin, surtout les retraités riches. Alors oui, il faut réfléchir à davantage prélever les retraités les plus aisés. Leur niveau de vie est plus élevé que les actifs cas uniques en Europe. Je suis opposé en revanche à une hausse de la flat tax sur les placements financiers, car le niveau de taxation du capital productif est déjà le plus élevé en Europe. Voilà. Donc lui, il veut 1. Mieux rémunérer le travail. 2. Réduire les prélèvements sur le revenu du travail. 2. Favoriser le développement de la population active. 3. Développer la productivité. Investir dans l'éducation, la recherche, les universités. Voilà, c'est son programme. Je vous lis. Alors, comme souvent quand on évoque l'augmentation de taxation des successions, vous n'êtes pas d'accord. Retraite et riche, à partir de combien, s'il te plaît? Je ne sais pas, Beginner, il ne donne pas de chiffres. Emma dit taxer plus le foncier pour revaloriser le travail. Je suis pour. Beaucoup de travailleurs n'ont pas les moyens d'acheter. Question de Midome qui me trouve être, je pense, être une question pertinente. Qui vous dit que les patrons vont augmenter le salaire et pas garder la différence pour eux si les charges sociales baissent? Question. Chapifad, mes parents ont fini de payer leur maison il y a 5 ans, on va les taxer parce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir cette maison à la retraite. Et Julio Bonito écrit en dessous, moi je suis pour taxer très fortement l'héritage à partir d'un certain moment. L'héritage de la succession en général est le premier facteur de la reproduction sociale génératrice des plus grandes inégalités. Linacos, on est peut-être le deuxième pays à avoir le plus de millionnaires par habitant grâce à l'immobilier et au foncier. Je pense aussi que le travail et la TVA sont trop taxés. Astif, mon père s'est tué toute sa vie à travailler comme un fou pour investir, classe moyenne basse, dis-tu. À son décès, perd la moitié des 3 apparts qu'il avait achetés, ça me fait vraiment mal. Je vous lis. Aujourd'hui, ma mère qui vient de perdre son père doit plus à l'État en frais de succession que ce qu'elle aura dans la poche in fine. Donc l'héritage en revient à une charge supplémentaire. Je crois que tu peux refuser un héritage, si je ne dis pas de bêtises. Si l'héritage te coûte plus qu'il ne te rapporte, ce qui peut arriver, je crois que tu as le droit de le refuser. Corrigez-moi le chat si je dis une bêtise. Oui, on peut refuser un héritage. Donc littéralement, normalement, tu ne peux pas être négatif avec un héritage. Tu peux dire que tu n'en veux pas. A priori, oui, ça confirme. Donc peut-être qu'il faut le dire à ta maman. Pour moi, rien de choquant à taxer fortement les héritages à partir d'une certaine somme. Les petits héritages ne devraient pas être touchés. Merci, Tardigrade Explorer. Ok. Bon, voilà pour les propositions de Denis Oliven, qui, lui, pense qu'il y a des solutions. Les voici, mais vos réactions sont extrêmement intéressantes. Je surveille l'heure parce que j'ai un Teams à midi. Ça, c'est pour l'opinion. Est-ce que je vais sur... j'accélère un petit peu. Je voulais passer directement à la moto, mais soyons raisonnables, Samuel, non, il faut que tu restes sur du sérieux un petit peu, parce qu'il y a un salon de la moto qui s'ouvre à Lyon, il y a un dossier dans l'équipe. Alors je vais très très vite sur l'IA, parce qu'il me semble que dans Le Monde, il y a un article qui semble assez complet sur le sommet de l'IA. Et je pense avoir trouvé enfin l'article qui fait un bilan, c'est page 15. Voilà, IA. Et après, on passe à la moto et après, je vous dis au revoir. Après, est-ce qu'on se retrouve cet après-midi pour du Valo ou ce soir, je ne sais pas. Il y a un sommet parisien qui acte les divisions. Ah putain, Bayrou, on n'a pas fait. Bah, on fera demain. Bayrou, les articles que j'ai trouvés ce matin, ils sont rikiki, ils ne sont pas suffisants. Et je pense qu'il faut trouver des articles plus complets que ça. Donc demain, je vous ferai une grosse page sur Bayrou, là, ce qui est reproché à Bayrou. Je pense qu'on aura plus de biscuits. Je pense que Le Monde va écrire dessus et Le Monde n'a pas encore écrit dessus. Voilà. Demain matin, il y a une revue de presse, promis. On fera une grosse passe sur Bayrou. Ouais. Je m'en fiche, Pascal, c'est pas grave. Je m'en fiche pour Kaamelott. Il y a un sommet parisien qui acte les divisions. Le raout s'achève sur des engagements modestes et non contraignants en faveur d'une... D'ailleurs, mon père t'a déjà vendu des motos. Samuel, il travaille chez Ducati. Sa maman, je pense que je vois très bien qui est ton papa. Il est très grand, très sympa, il n'a pas beaucoup de cheveux. C'est lui ton papa? Parce que si c'est lui, je le connais très bien, il est très sympa. Et il m'a vendu des Ducati, ouais. Et c'est un très bon vendeur de Ducati. Tu rentres dans le magasin, tu repars avec 20 motos. Alors, qu'est-ce que dit Le Monde du bilan? Merci, Erwino. Donc je vais un petit peu au... Putain, les mondes sur l'IA depuis quelques jours, je trouve qu'ils sont pas... C'est comme hier, c'est un peu touffu là. Ça manque un petit peu de vulgarisation, quoi. J'ai eu le même sujet avec un dossier hier du Monde que je trouvais très prometteur, et après en le découvrant, je trouvais que ça n'allait pas directement à l'essentiel, quoi. Je pense que l'édito de la fin résume bien, on va aller le voir. J'ai vu un édito dans Le Monde, à mon avis, qui doit bien résumer cet article. L'édito, quand on est bien écrit, c'est aussi un résumé. IA, la nécessité d'une troisième voie. Je pense que tout est là. Le sommet pour l'action sur l'IA, organisé par la France et l'Inde, lundi 10 et mardi 11 février à Paris, a tenté de poser... Ouais, il est bien l'édito, c'est bien ce que je pensais. A tenté de poser les fondements d'une coordination multilatérale afin d'encadrer l'émergence d'une technologie dont l'impact reste difficile à mesurer. Au-delà des annonces d'investissement, les 109 milliards dont je vous ai parlé hier, hein, pour la France, venant de fonds privés, de bonnes intentions, de la multitude d'interrogations restant encore sans réponse, cette tentative louable se heurte à de fortes divergences d'approche entre les pays notamment, hein, qui n'ont pas permis de dépasser les enjeux de puissance et de souveraineté que redessine l'IA. Il y a l'IA, il y a danger, avantage, inconvénient, ce que ça peut nous apporter, les menaces. Mais il y a aussi une compétition entre entreprises et entre États. Une soixantaine de pays ont signé la déclaration finale qui appelle une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Ces trois notions renvoient à un socle commun pour maintenir un dialogue sur les évolutions de cette technologie, évitant une concentration des acteurs qui la maîtrisent et œuvrer pour qu'elle soit compatible avec les objectifs climatiques et le développement humain. Objectifs climatiques, il faut en parler au Figaro quand même, de ce matin. Ces grands principes demeurent généraux et l'efficacité de cette ébauche de gouvernance reste à démontrer. Il s'agit néanmoins d'un point de départ indispensable pour encadrer une technologie, certes prometteuse, mais qui est en même temps excessivement énergivore, capable de manipuler les opinions, d'exercer une surveillance dangereuse pour la liberté publique, de déstabiliser le marché du travail, voire de tuer lorsqu'elle est intégrée à des systèmes d'armement. Les interrogations sur l'IA, elles sont résumées ici dans ce petit passage. Le questionnement, les craintes. Ces précautions minimales ne sont pourtant pas unanimement partagées. Deux pays majeurs, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis, le leader mondial actuel de l'IA, ont refusé de signer cette déclaration finale. Londres juge que les initiatives prises ne vont pas dans le sens de l'intérêt national britannique. Le vice-président américain, lui, a appelé, qui était à Paris, a appelé à limiter la régulation pour ne pas tuer une industrie en plein essor. Pas de cadre, pas d'encadrement, pas de surveillance. Laissons les entreprises faire ce qu'elles veulent. Tout en mettant en garde l'Europe contre des partenariats avec des régimes autoritaires pointant, sans la nommer, la Chine. Fixer un cadre minimal à l'IA n'est pas incompatible avec l'innovation, dit Le Monde. En opposant les deux notions, encadrement et innovation, les États-Unis cherchent surtout à préserver leur avance dans ce domaine, sans se soucier de son impact. La régulation peut même aider l'innovation. La législation européenne sur les marchés numériques qui vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet peut se révéler en fait utile pour éviter que ces entreprises monopolisent l'accès à l'IA en favorisant leur propre système au détriment de nouveaux entrants. Est-ce que tu mets du fond de teint pour être toujours bronzé ? Non, je suis naturellement un beau gosse. Je me réveille comme ça. Et c'est vrai. Pour le coup, là, il n'y a pas de... En vrai, j'ai une super caméra et des super lumières. C'est surtout ça. Mais il n'y a pas de fond de teint. C'est surtout le... Je pense que c'est surtout la caméra et les lumières. Concernant le risque chinois, le vice-président américain n'a pas forcément tort, mais il ne s'agit pas pour autant que l'Europe se place sous la dépendance des États-Unis. C'est une question de souveraineté, mais aussi une façon d'envisager l'IA. Ce sommet de l'IA a été l'occasion pour l'Union européenne et la France d'annoncer des investissements colossaux, on en parlait hier. Cette surenchère de moyens ne peut toutefois pas être une finalité. L'exemple de l'entreprise chinoise d'IA DeepSeek montre que ce n'est pas forcément mieux. L'UE doit aussi proposer des alternatives au modèle américain en misant sur l'IA en source ouverte, sur la frugalité énergétique, la sécurité et la transparence des systèmes. Trump est bronzé, me dit-on ? Non, Trump est orange, ce n'est pas la même chose. Il s'agit aussi de financer des voies de recherche non couvertes par les géants américains dans une approche capable de répondre aux besoins des pays du Sud. Ce sommet esquisse une troisième voie qu'il est nécessaire d'explorer. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. 56, bah, je ne vais pas pouvoir parler des motos, putain, on était sûr. Dans l'équipe, il y a un dossier sur les motos. Putain, je ne pars jamais de moto. Avant, j'ai à une époque, j'étais fou de moto, je voulais savoir s'il y avait des nouveautés, des trucs un petit peu là. Demain, ah peut-être demain, Sugar, ouais, t'as raison. Demain, on parle de Bayrou et de moto. Les deux sujets n'étaient pas liés. Voilà. Les nouvelles motos, les tendances, qu'est-ce qu'il y a vraiment de... Moi, je pars du... J'ai un préjugé. Je trouve que le marché de la moto n'évolue pas. C'est un peu toujours les mêmes trucs. Ça freine un peu mieux, ça va un peu plus vite. Mais c'est pas très radical, quoi. Donc voilà. Donc on lira ça. Tiens, c'est qui lui ? Babette le phoque, un petit repos pendant un long trajet. Ça se protège la liberté ? Quel rapport entre le phoque et les motards ? Je suis con, quoi. C'est quoi le message ? Pas bête le phoque, un petit repos pendant long trajet. Quel rapport ? C'est quoi la blague ? Mutuelle des motards ? Quel rapport entre la mutuelle des motards et l'animal ? Il baille et se repose, c'est tout ? Putain, mais c'est une campagne publicitaire que tu fais en CE1, quoi. C'est bizarre. Oui, what the fuck, exactement, Étienne. Ouais, bon, ok. Bon, j'aime bien la mutuelle des motards, à une époque, c'était mon assurance. Bon, les amis, bon, ce dossier, on le verra demain. Et puis, on bossera sur Bayrou, là, l'histoire de... Il est soupçonné, le premier ministre, d'avoir couvert des agissements... Pédophile, si je comprends bien, dans un établissement scolaire. Il aurait su, il n'aurait pas dénoncé, c'est un truc comme ça. Donc ça n'est pas anodin, mais comme toujours, j'attends d'avoir des billes, des infos sur le sujet, des articles un petit peu approfondis. Je pense que demain, on est dessus, quoi. Ok ? Ouais. T'es passé un 12 coup de midi ? Peut-être bien, ouais. Avais une question sur moi ? Ouais. Et cet après-midi, Valo, je sais pas. Franchement, la soirée d'hier soir, on m'a fait beaucoup de mal. Attendez. Non, bougez pas. Non, je pensais que c'était un monsieur qui devait venir réparer une porte au studio, mais non. Donc du coup, je sais pas, pour cet après-midi. Hier soir, une soirée de loose, Gucarl, qui m'a vraiment mis le nez dans mon niveau sur Valo. Ça a été psychologiquement très très dur. J'ai supprimé le replay même. Ah ouais, ça a été très très dur. La commu était là pour me soutenir. Les gens étaient une gentillesse, mais ça a été très très dur. Vraiment, j'ai... Waouh. Diesel me dit, délète le jeu, il y en a plein d'autres. C'est dur pour les nerfs, les FPS, ouais, je sais, ouais. Sérieux ? Il vient d'avoir une question sur les 12 coups de midi. Pour quelle raison Samuel Etienne a été banni 3 jours de Twitch en 2021 ? Il vient d'avoir une question aux 12 coups de midi. Pour quelle raison Samuel Etienne a été banni 3 jours de Twitch en 2021 ? C'est ça la question ? Sur 80 000 streams ? Quelqu'un ce matin dans une revue de presse sur Twitch disait « Je me demande si le fait que les médias traditionnels s'intéressent surtout à ce qui ne va pas sur Twitch et sur YouTube n'est pas une façon consciente ou inconsciente d'exprimer leur mépris pour ce qui n'est pas ces médias traditionnels. » En disant voilà, en s'intéressant plutôt à ce qui ne marche pas. Quelqu'un se posait cette question ce matin et là vous me rapportez que la question sur les 12 coups de midi, c'était sur mon ban de Twitch de 3 jours pour avoir lu Le Parisien, je crois, sur l'évolution de la représentation de la nudité à la télévision française depuis les années 50. Je pense que cette personne qui s'interrogeait ce matin sur le fait que les médias traditionnels s'intéressaient plutôt à ce qui ne, aux polémiques dans cet univers-là, je me demande si ce n'est pas le signe de, d'une forme de mépris conscient ou inconscient. Je me pose juste cette question. Les amis, un petit raid et j'ai ma réunion. Let's go. C'est très intéressant. Qui est en live ? Ouais, je suis en retard là. Il est midi une. Ok, du monde, il y a du monde. Ok. Ouais, je vois, il y a du monde. Il y a des amis qui sont en live là. Hop. Les amis, l'ami Citron Violet qui est au Japon, hein, qui nous raide presque tous les matins, enfin très souvent. Voilà. Il est en live là. Il est en live, voilà. Donc on va lui renvoyer la politesse, ça me semble vraiment bien, quoi. Hop, hein, on est d'accord. On va au Japon, là, dans une nouvelle ville visitée par Citron Violet, qui est manifestement Sakata, à vérifier. Citron Violet. Voilà, c'est un super gars, c'est un Français, il vit au Japon, c'est formidable ce qu'il fait, et il nous soutient beaucoup, lui aussi. Alors c'est à nous de lui renvoyer la politesse. Prenez soin de vous, peut-être du stream cet après-midi. Voilà, si vraiment j'abandonne toute idée de vie équilibrée et saine, au lieu de dormir ou de faire un peu de sport. Donc on se retrouve peut-être tout à l'heure après ma réunion, je ne sais pas. Peut-être ce soir, mais je ne sais pas. Ça va dépendre. Voilà. Mais merci pour tout. J'ai passé un super moment avec vous ce matin. Merci d'être aussi nombreux pour la revue de presse en ce moment. C'est vraiment top. On va au Japon. Magie de Twitch, qui est un beau média, n'en déplaise à certains. Et on se retrouve très très vite. Merci pour tout.